Bonjour à tous, chers amis, ou plutôt rebonjour, car nous avons assisté il y a peu à une sorte de phénomène paranormal qui a fait que notre émission, ou le lancement précédent de cette émission, ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Alors, en espérant que cette fois-ci, tout aille très bien. Pour les absents de ce premier lancement, je reprends là où j'en étais. Donc, je reviens du Japon, je suis arrivé en France depuis 3 jours, un petit peu de repos, un petit peu beaucoup de sommeil, et me voici devant vous pour vous parler une nouvelle fois des mystères du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler phénomènes paranormaux, nous allons parler de réalité ou de monde subtil, nous allons parler de mégafaune, d'infrafaune et de médiafaune, nous allons parler de tellurisme, nous allons parler de formes pensées d'égrégore et tout un tas d'autres choses assez captivantes. Pour en parler, je reçois ce soir en interview Bragi Belovac. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Bragi est un chercheur ou un enquêteur qui enquête depuis de nombreuses années sur les phénomènes paranormaux, sur les ovnis, l'ufologie, sur la cryptozoologie, dogman et autres créatures, et qui a écrit plusieurs livres sur ces thématiques en proposant le fruit de ses recherches. Son premier livre, La calèche sur le chemin, qui présente sa conception un petit peu de tout cet environnement surnaturel, Bigfoot Dogman, où il étudie des cas concrets de cryptozoologie, et son nouveau crime, si je puis dire, qu'il a commis, Qualon, ou le portail des phénomènes surnaturels. Et il va venir ce soir pour nous parler un petit peu de ses concepts, de ses théories, de sa recherche actuelle, pour tenter de mieux comprendre dans quel environnement nous vivons. N'attendons pas plus et recevons Bragi, afin qu'il puisse partager ses découvertes. Bonjour Bragi, est-ce que tu m'entends bien ?
Oui, je t'entends bien. Bonjour ou rebonjour, Ludovic.
Oui, rebonjour pour le coup. Alors, du coup, ceux qui étaient là n'auront pas l'exclusivité des révélations précédentes qui ont duré quelques minutes seulement. Reprenons un petit peu le fil de notre histoire. Alors, toi, Bragi, je résume un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, tu es ingénieur agronome de formation. Tu viens d'un milieu plutôt rationnel à la base de ton milieu familial.
Tout à fait.
Étant tombé dans la spiritualité assez jeune, 12-13 ans, tu nous disais tout à l'heure, ça t'a poussé progressivement à expérimenter, à chercher dans différents domaines, hein, cryptozoologie, ufologie, apparition, phénomène de hantise, exorcisme, spiritisme aussi, donc tout ce que tu nous disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans ton nouveau livre, tu nous présentes un petit peu la synthèse de toutes ces années de recherche. Et donc, de quoi, en fait, concrètement, parle ce nouveau livre, Qualon, le portail des phénomènes surnaturels ? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'idée centrale de ce livre ?
Alors, ça va être difficile parce qu'il est assez conséquent, hein, ce livre. Mais effectivement, il reprend vraiment cette vision globale des phénomènes surnaturels. Avant, j'employais le terme de phénomène inexpliqué et puis le terme a changé. J'emploie maintenant le terme de surnaturel. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce n'est plus inexpliqué puisque j'en ai une explication. Donc, c'est plutôt surnaturel et sur entre parenthèses parce que pour moi, c'est du naturel, mais c'est du naturel que nous ne comprenons pas encore, nous, êtres humains qui expérimentons l'espace-temps, la dualité, nous ne comprenons pas encore qui nous sommes, ce que nous faisons ici et vers où nous allons. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer avec une vision à la fois cartésienne, matérialiste, parce que j'explique comment les phénomènes s'ancrent dans la réalité, par quelles lois ils arrivent à rentrer, à percer notre réalité. Et puis de l'autre côté, j'amène une forme de spiritualité, entre guillemets, au travers de ce que j'ai compris de ces phénomènes, en leur donnant un point d'origine. Et puis enfin, je leur donne ce point de passage intermédiaire qui est la membrane du Qualon, c'est-à-dire une réalité qui nous entoure, qui scinde cette réalité matérielle, et puis sur les bords de cette membrane qui est le Qualon, et ben des phénomènes co-générés ou auto-générés rentrent dans la réalité et se manifestent chez nous avec justement une perte d'espace ou de temps. On voit qu'il y a une forme de divergence qui se crée, une instabilité, et c'est moi mon angle de vue pour y amener du concret, parce que les phénomènes inexpliqués, c'est quand même quelque chose qui demande d'être étayé. Et moi, qui suis issu de la ruralité, qui ai toujours essayé de commencer à expliquer ces phénomènes en allant sur le terrain avec des choses très maîtrisées, par exemple, mes premières manipulations, on va dire presque ésotériques, c'est la radiesthésie. Je tiens un pendule dans la main, c'est bien moi qui tiens ça, c'est un objet qui va moi me sécuriser en me disant c'est matériel, c'est bien un outil que j'utilise. Et bien ensuite, ça m'a ouvert l'esprit en me disant voilà, mais avec ce pendule dont j'explique le fonctionnement, comment ça fonctionne, j'arrive à faire rentrer de l'information, on va dire, de l'information subtile dans ma compréhension, dans mon champ de compréhension. Donc j'essaye toujours d'étayer en partant de la matérialité et je glisse tout doucement, je bascule vers cette immatérialité. Voilà en gros. Et le Qualon, c'est la membrane, c'est la porte d'entrée. Et j'essaie d'expliquer ce moment précis où d'une réalité physique classique, on bascule dans quelque chose qui devient complètement surnaturel.
D'accord, je vois l'idée. Alors, on va poser un petit peu le cadre de cette émission, puisque on avait eu l'occasion d'en parler cet après-midi en échangeant un petit peu sur le sujet. Ce livre est sorti il y a un peu plus de 10 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis lors, tu as fait plusieurs émissions hein, sur Nura TV, chez Michael Desbarants, je crois chez Monde Mystérieux, enfin plusieurs émissions où tu as fait, par exemple chez Nura TV, plutôt un format conférence qui décrit un petit peu les grandes mécaniques de ton concept, de ta théorie. Et puis d'autres qui étaient un peu plus en interview, un petit peu, aussi beaucoup sur ton témoignage personnel, notamment sur comment tu en es arrivé là. Moi, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez différent. En gros, puisque Bragi n'est pas au courant spécifiquement des questions que je vais poser ce soir, vous auditeurs. Donc en fait, j'ai découpé la liste de questions que je vais te poser en 3 grandes parties. Une première partie qui va concerner ton concept, comment tu exprimes l'idée de l'infrafaune, la médiafaune et la supraphaune. Une deuxième partie où je vais te poser des questions qui concernent le Qualon à proprement parler ou le portail du phénomène surnaturel, comment ça fonctionne, comment il est censé s'ouvrir, se déchirer et tout un tas d'autres choses. Et une dernière partie où je vais te poser des questions sur la création des phénomènes surnaturels, extérieurs ou qu'on autogénère, en l'occurrence. Mais avant d'aller dans toutes ces questions un peu plus techniques, on va poser un petit peu le cadre en amont pour plusieurs raisons. Le sujet de l'émission ce soir traite du paranormal et donc spiritualité, occultisme, etc. Mais néanmoins, pour ne pas tomber dans l'excès de croyance ou ne pas tomber dans des choses qui seraient que des affirmations gratuites de nos parts respectives, de toi ou de moi ou de n'importe qui d'ailleurs, on va essayer de cadrer un petit peu plus précisément ta démarche. Et pour ça, j'aurais quelques petites questions. Dans tes travaux antérieurs, déjà, tu as apporté ce que j'estime être un concept extrêmement intéressant, qui est que la plupart des phénomènes, c'est-à-dire ufologiques, cryptozoologiques ou de hantise, ne sont pas forcément des phénomènes matériels au sens premier du terme. C'est-à-dire que quand on voit, dans ta théorie, je résume, hein, tu me corrigeras si je dis des erreurs,
Bien sûr.
quand on voit un ovni dans le ciel, ce n'est pas forcément une grosse boule de métal ou un gros triangle métallique, ce n'est pas forcément présent physiquement. Pareil, quand on verrait un dogman ou je ne sais pas, une autre créature, un mothman, par exemple, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment devant nous au sens tangible. Donc, cette théorie, est-ce que tu peux nous la résumer un petit peu tout d'abord?
Alors, aujourd'hui, cette théorie-là, c'est celle qu'on va développer. Elle commence à connaître presque une création courante de pensée au travers de plusieurs chercheurs qui sont en train d'amener cette forme de semi-matérialité du phénomène. Je pense notamment, on a Philippe Solal, on a Laurent Kapowski, je crois, Kapowicz, je ne sais plus, je suis désolé si je
C'est
déforme
pas
son nom.
grave.
On est plusieurs, tout doucement, à se rendre compte que le taux les boulons, ou le poil les chairs, si on est sur le cryptozoologie, ne répond pas à une grande partie des témoignages de témoins qui nous expliquent que, par exemple, sur certains cas de Bigfoot, les pas se sont imprimés dans la neige, mais ils ne voyaient pas la créature. par exemple, que certains phénomènes, que ce soit crypto, zoologie, enfin, ou ovni, vont littéralement pomper les batteries, ou même les ghost hunting, hein, les personnes qui sont en contact, qui essaient de rentrer en contact avec des esprits, des fantômes, se rendent compte qu'il y a une interaction avec l'électromagnétisme et notamment avec leur matériel. Donc, il y avait quelque chose qui me paraissait incohérent si on rentrait uniquement dans le taulé-boulon, le poêle-à-chair ou peu importe. Effectivement. Donc, de mon point de vue, j'ai essayé au travers de livres ésotériques aussi de trouver des réponses. Et c'est par la voie de la théosophie que j'ai trouvé des premières pistes de réflexion que je pouvais ensuite amener sur le terrain. C'est-à-dire que je n'ai pas pris pour argent comptant les œuvres, par exemple, d'Alice Bailey ou de Dion Fortune, mais ce qui était donné dans ces écrits-là, hein, on dit que en plus ces personnes se disaient en contact avec des maîtres, en tout cas avec, ils recevaient de l'information et c'est après relecture qu'ils concevaient ce qu'ils avaient écrit. Donc, ce n'était pas, selon elles, tiré de leur propre connaissance. Et donc, dans ces livres que j'ai pris vraiment au début avec des pincettes, quand je suis rentré dedans, on faisait quand même, on parlait de force qui était derrière la réalité, de différents plans. Et en parallèle, je les ai mis, moi, en face des témoignages terrain ou de ce que je vivais, moi. En me disant, mais est-ce qu'il y a des rapprochements? Et effectivement, il semble avoir des rapprochements. J'en ai tiré une conclusion au bout d'un certain moment, notamment au travers du livre La doctrine cosmique de Dion Fortune, où elle expliquait la présence des atomes germes. Alors ça, c'est quelque chose qui a été peu repris en fin de compte quand j'ai cherché sur la toile ou dans d'autres livres. Les concepts sont tellement complexes qu'ils ont été sûrement survolés par les gens et jamais vraiment expliqués ou utilisés dans une réflexion plus large sur les phénomènes surnaturels. Ça restait très ésotérique et très théorique, mais pas amené sur les éléments factuels de cas terrain. Donc, je suis parti là-dessus et la problématique des atomes germes. Donc, ce serait une espèce de, c'est pas une matière, c'est un concept immatériel géométrique autour duquel vient se structurer, s'agglomérer une cristallisation de la matière. Moi, je vois la matière un peu à l'image de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle peut avoir un état gazeux, un état liquide et un état solide. Et ben, au fur et à mesure que j'avançais dans ces comparaisons entre cette théorie des atomes germes et les cas terrains, j'ai commencé à émettre l'hypothèse que la matière, elle aurait cette capacité de changer d'état vibratoire en fonction d'une architecture géométrique portée par ce que l'on appelle les atomes germes, c'est-à-dire les éléments au-delà, pour raccrocher à la science, au-delà des quarks. Au-delà des quarks, ces atomes germes résonnaient dans mon esprit comme la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'une vibration, et Dion Fortune explique aussi, des adjonctions géométriques complémentaires font basculer la matière d'un plan vers un plan plus dense si on a une adjonction d'une forme géométrique, d'un côté géométrique supplémentaire. À l'inverse, une défragmentation des atomes germes, c'est-à-dire la disparition d'un côté géométrique de cette structure, faisait basculer la matière, la faisait glisser dans une dimension inférieure. Et ce qui faisait que dans la réalité, nous avions des témoins qui voyaient un phénomène apparaître spontanément, puis disparaître à l'inverse. Et on aurait un retour dans cette forme d'immatérialité de notre point de vue, mais qui reste une matérialité sur un plan inférieur. La théosophie m'a aussi beaucoup aidé parce qu'elle amène une architecture des plans. Pour faire très simple, on a un plan bouddhique. Bon, je ne vais pas aller plus loin. On
Alors
va
là,
s'arrêter au plan bouddhique, qui est
oui,
un
va
plan
falloir pas aller pas trop loin parce
subjectif.
que on va en parler de tout ça tout à l'heure.
Ah d'accord. Donc pour faire très simple, plan subjectif, le mental, c'est-à-dire des phénomènes qui vont s'objectiviser dans une forme d'archétype, puis l'émotionnel qui ramène une couche supplémentaire, on va dire, de temps, et ensuite le basculement au travers du plan éthérique de ces atomes germes qui structurent cette matière qui d'un coup arrive spontanément dans la réalité, mais arrive spontanément en fonction de critères que je développe dans Quallon.
D'accord, ouais. Je vois l'idée, ça résume bien. Est-ce que tes théories, tes concepts actuels sont bien reçus dans les milieux ufologiques et cryptozoologiques?
Alors, en ufologie, on a quand même Encore des
En simple, hein, c'est
réticences.
vraiment en simple.
Oui. On a des réticences encore d'une ancienne génération d'ufologues. On va dire l'ufologie que j'appellerais l'ufologie de salon, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés de ça, qui en discutent autour d'une table. Et puis on a après les ufologues de terrain qui se disent à un moment ce que Bragi amène. Et d'ailleurs, j'avais vu un mail qui disait on va l'inviter parce que quand même ce qu'il amène à un moment, nous, on tourne en rond. Il va bien falloir qu'on commence à aller vers cette théorie-là parce qu'au final, ça colle. Donc on a un basculement qu'on a depuis 2000, 2016, je crois, avec le livre OVNI Conscience de Monsieur Bonvin, avec un collectif d'auteurs, des spécialistes du monde chamanique, des philosophes, des scientifiques. On commence à amener la notion de conscience, soit des témoins, soit des consciences supérieures, avec une co-création des phénomènes, presque archétypale. Donc c'est en train de naître, c'est quelque chose en France qui est en train de monter en force, mais on a encore beaucoup de réticences dans les anciens, on va dire les anciennes générations, quoi.
D'accord. Et au niveau de la réception de tes travaux via un milieu scientifique plus commun, peut-on dire? C'est-à-dire, je ne parle pas de scientifiques qui vont toucher aux sciences alternatives, je parle de scientifiques qui sont, ce qu'on va dire, plus académiques, au sens, sans que ça soit péjoratif. Est-ce que tu as
Moi,
des contacts avec eux ou est-ce qu'ils ont étudié tes travaux?
j'ai peu eu de retour, j'ai peu eu de retour avec ce type de personnes. Par contre, on m'a mis en parallèle ma théorie avec celle de Monsieur Petit,
Alors,
avec son.
Monsieur Petit est l'exemple parfait, c'est-à-dire que Monsieur Petit
Ouais.
est un brillant chercheur, il n'y a rien à dire sur ce sujet, mais il est considéré comme alternatif sur de nombreux aspects.
Ouais.
Tu vois ce que
Non,
je veux
bah,
dire? C'est pour
oui, bien
cibler un. C'est
sûr.
pas une question d'être d'accord ou pas avec lui, hein,
Non, non, non,
c'est
non.
juste pour clarifier un peu la frontière.
Moi, je pense que Coilon, parce que le Coilon commence, enfin, c'est quelque chose d'assez dense dans ce livre, il est vraiment très dense. Il amène une proposition avec un éventail d'explications sur tous ces phénomènes. Coilon, je le présente depuis septembre, donc il faut aussi laisser le temps que ça infuse. Moi, je pense que c'est encore tôt. Et pour l'instant, non. Pour répondre très simplement à ta question, Ludovic, moi, je n'ai pas eu de contact, de retour de scientifiques académiques qui sont venus mettre à mal ou qui sont venus valider ce que je fais actuellement. Voilà, pour répondre très simple.
D'accord. Oui, c'était pour justement cadrer un petit peu sur les milieux par lesquels ça va toucher. On est toujours dans cette introduction pour cadrer vraiment précisément ta démarche. Ça me semble nécessaire par rapport à tout ça. Alors, moi, la première chose que je fais à chaque fois que je prends un bouquin, donc le Coilon, c'est comme tu l'as dit, c'est un bon pavé quand même, va falloir vous accrocher pour le déguster tranquillement. Je vous rappelle, hein, on est sur une émission en direct, évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, notamment tous les aspects témoignages, hein, expérimentation qu'il y a dans le bouquin. Donc, vous trouverez le lien en description de la vidéo pour vous le procurer. Mais moi, la première chose, quand je reçois un livre ou que je prends un livre, je vais à la fin. Et je vais regarder la bibliographie. La première chose que je fais. Et donc, quand j'ai ouvert ton livre, j'ai été voir ta bibliographie et j'ai scanné un petit peu tous les auteurs que tu références. Et donc, j'ai décelé dans ta bibliographie beaucoup de théosophes. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, la théosophie t'a été très utile. Donc, bon, Paley, Besant, Blavatsky, on les connaît tous. Dionne Fortune, qui est la seule occultiste à proprement parler, hein, que j'ai identifiée dans ton livre. On va avoir ce que je vais appeler des folkloristes, mais pas forcément du milieu universitaire, quelques-uns. On va avoir un auteur particulièrement sur le tellurisme, notamment, qui est référencé, et quatre scientifiques, notamment Pinel, qui est un des plus importants dans ton livre. Mais ces quatre scientifiques sont considérés comme ayant des démarches marginales, c'est-à-dire des démarches qui ne sont pas reconnues dans le milieu scientifique. C'est important pour le préciser. Alors, je dis pas ça pour diminuer la portée, c'est pas du tout le propos, c'est pour te poser quelques questions. La première question, c'est justement, toi, sur toutes les sources qui t'ont été utiles, tu as quand même pris la moitié qui vient du milieu occultiste ésotérique, peut-on dire, et l'autre côté des scientifiques qui sont déjà eux-mêmes un petit peu en marge. Est-ce que tu ne risques pas qu'on t'apporte la critique de la fragilité de tes travaux par rapport à ça?
Alors moi, la fragilité de ces travaux qu'on pourrait mettre en cause, elle pourrait tenir si je restais dans de la théorie pure. Or, l'un des autres leviers que j'utilise, c'est reprendre tous ces témoignages dits surnaturels et puis d'essayer d'y amener des réponses au travers de cette théorie que je propose. Et il s'avère que ça colle, hein, pour de nombreux cas, et ça vient amener même une plus-value, et ça vient mettre en lumière certains cycles naturels qui n'étaient pas forcément visibles pour, dans le cadre de ces phénomènes, et qui pourtant existent. Je parle notamment des syzygies, c'est-à-dire ces alignements gravitationnels que l'on connaît notamment sous le terme de pleine lune et nouvelle lune, avec un alignement soleil, terre, lune, ou alors terre, lune, soleil. Et tous ces phénomènes, que ce soit ufologiques, du coup, des éléments que les témoins n'amenaient pas, et qui pourtant existent, ressortent, si tu veux. Ensuite, il y a aussi ce que j'ai fait au niveau du terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai été sur ces terrains avec du matériel type voltmètre pour aller voir ce qui se passait sur ces sols, dont je suspectais la présence d'une électrolyse. Je pense notamment au cas d'Aravilliers, qui se trouve dans le Val d'Oise, ou alors les cas de la forêt de Retz, dans le Valois. Quand je suspectais théoriquement la présence d'électrolyse ou de courant électrique dans ces sols, et que je vais sur le terrain, sur ces endroits précis où les gens ont vu des choses, et que je vérifie effectivement la présence de ces courants électriques, et qu'en plus, sur ces sols, notamment sur le cas d'Aravilliers, la personne se dit enlevée par une soucoupe volante, et dit l'entité m'a dit inversion de polarité. Inversion de polarité. Bon, pourquoi pas, hein, on l'écoute, bon bah voilà, il a ce propos-là, super. Mais quand on va sur ces sols, qu'on teste, c'est-à-dire là, je mets un acide sur ce sol, avec mon voltmètre, je regarde ce qui se passe, et là je ne l'avais pas anticipé, je vois l'inversion de polarité électrique. Et je me dis, waouh, je suis en train de valider un témoignage d'un témoin dans les années 90 sur ces sols. L'entité lui aurait dit inversion de polarité, qu'est-ce que j'ai sur mon voltmètre, où je suspecte justement, enfin sur ces sols où je suspecte une électrolyse, je mets en place une électrolyse voltmètre à l'appui, je vois l'écran digital du voltmètre qui passe d'un courant électrique positif, il se remet à zéro, et il s'inverse, je vois le signe moins qui apparaît sur le cadran, et le voltage repart en arrière en mode inversion de polarité. Là, je me dis que oui, effectivement, je ne vais pas sur les courants scientifiques posés parce qu'eux ne sont pas à même aujourd'hui de répondre à ces phénomènes. Mais quand on écoute les théories de certains scientifiques qui ont osé aller plus loin, c'est-à-dire de sortir d'une forme de religiosité, de croyances scientifiques, qui vont encore plus loin, qui restent marginaux parce qu'ils dérangent, parce que ce qu'ils trouvent est dérangeant, mais quand je prends ces bases-là et que je vais sur le terrain pour expliquer un phénomène surnaturel et que je trouve ces éléments, je me dis que bah, ça valait le coup de le faire et de rester quand même uniquement avec ces personnes qui vont plus loin, en fin de compte.
Ouais, non, je comprends la démarche, mais c'est important que
Oui, il
tu
faut le
l'éclaires
dire, tu as raison.
pour nos auditeurs, c'est très important. Alors, du coup, ça m'amène à une dernière question introductive pour cadrer, c'est la valeur du témoignage. Alors, je fais partie de ces gens qui, bien que s'intéressant et se définissant comme occultiste, je suis d'une extrême méfiance envers les témoignages. Être d'une extrême méfiance envers les témoignages ne veut pas dire qu'on dénigre les témoins ou qu'on les accuse de quoi que ce soit. C'est juste qu'un témoignage n'a de valeur que pour celui qui l'exprime et pour celui qui a vécu quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Si demain je vois un ovni, la seule certitude que j'ai, c'est que moi, j'ai vu un ovni. Cela ne veut en aucun cas dire que l'ovni existe. Ça ne veut en aucun cas dire que les autres l'ont vu. Ça ne veut en aucun cas dire que les extraterrestres existent ou quoi que ce soit d'autre. Ça n'est qu'une observation à un instant T par un individu non vérifiable de l'extérieur. Donc, comment tu gères cette somme de témoignages, sachant toute la critique qu'on peut faire des témoignages et leur, manque de fiabilité?
Alors, il y a plusieurs choses à dépeindre. Déjà, effectivement, moi j'avais l'occasion de parler avec des amis gendarmes hein, qui nous parlaient justement de la faiblesse du témoignage humain, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On a aussi des gens qui arrivent avec des croyances, qui se préparent psychologiquement, qui veulent voir et qui à un moment finissent par voir ou croire qu'ils ont vu. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une deuxième chose à prendre en compte avec ces phénomènes. Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à tomber tous d'accord sur ces phénomènes, qu'ils soient co-générés, auto-générés? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a autant de témoins qu'il y a de phénomènes. Et s'il y a autant de témoins que de phénomènes, je l'avais déjà expliqué dans mon livre La calèche sur le chemin, c'est qu'il y a une forme de cogénération. Et donc, il y a une forme de multiplicité de ces phénomènes qui prennent la forme que l'observateur soit génère, soit qu'il est prêt à voir. Donc, c'est difficile d'amener des clés de lecture automatiques quand on a une multiplicité de phénomènes liés à une multiplicité de témoins qui cogénèrent un phénomène qui est donc multiforme. C'est déjà, dans un deuxième temps, très compliqué. Dans un troisième temps, c'est pareil, j'ai été témoin en 2023 de deux ovnis en 20 minutes, j'en ai parlé longuement sur d'autres chaînes, mais je l'avais spécifié quelquefois. J'ai été témoin sur le balcon, je vois ces deux phénomènes, le deuxième, je le montre à ma compagne qui ne le voit pas. Ça, c'est encore un élément qui montre que c'est très compliqué de travailler avec ça. Alors, comment on peut faire? Mais il faut pas rester sur un cas ou deux. Il faut démultiplier les enquêtes sur tout un tas de cas. Faire confiance à un moment à certains témoins, on n'a pas le choix, hein. Bon, moi, je prends souvent les cas les plus anciens, des cas bien référencés, ou des cas où comment dire, le sérieux du témoin n'est pas remis en cause. Dès que je sens un doute, je ne traite pas. Mais quand je sens que c'est très crédible, que ça a été déjà vérifié, bah ensuite, dans un troisième temps, je mets Quallon, je fais apparaître cette théorie quallonienne sur ces terrains. Je vais sur le terrain, je vérifie. Est-ce que les types de sols, est-ce que des spécificités météorologiques, est-ce que des syzygies, c'est-à-dire des alignements de Terre-Lune-Soleil ou inversement Nouvelle-Lune-Pleine-Lune, sont présentes sur ces cas? Et puis, il s'avère que dans les cas les plus sérieux, j'ai une accumulation de preuves, et je le montre dans Quallon, qui montre qu'il y avait bien ce que j'appelle les contextes tenseurs, c'est-à-dire ce qui va déchirer la membrane du Quallon. Ça existe. Alors, j'ai un cas. Par exemple, le docteur X, c'est un cas connu d'un docteur qui s'est fait appeler X, qui a témoigné sous le nom de X. Et dans les années 90, moi j'étais adolescent, où il explique qu'il a une forme géométrique triangulaire sur le ventre qui réapparaît régulièrement et qu'il
Alors,
avait été témoin d'un phénomène.
je te coupe. Je te
Ouais.
coupe sur le témoignage. Là, tu
Ouais.
viens de dire quelque chose immédiatement. Première question, est-ce qu'il y a une photographie, une preuve qu'il ait cette marque sur le ventre?
Alors, cette photographie, nous on l'avait vue, mais c'est pas ce tu vas voir,
Mais
tu
si, le problème, oui, mais justement, si moi je ne peux pas la voir, je n'ai pas de preuve de son existence.
Oui.
Tu vois, c'est la limite du témoignage.
Oui. Mais c'est pas là-dessus que j'ai fixé, moi. Moi, j'ai fixé sur ce qu'il a dit. Il a expliqué qu'il a vu l'OVNI alors qu'un orage venait de passer. Moi, j'avais vu mes ovnis en orage, en conditions orageuses. Et là, j'émets l'hypothèse, je me dis, à mon avis, ce cas-là est typiquement dans un cas d'effet faune, c'est-à-dire un cas climatique avec des vents qui créent un contexte tenseur. Donc je me dis, ben, je vais aller vérifier avec la météorologie ce soir-là, parce qu'en plus c'était à l'automne, donc on n'était pas du tout dans un cadre normal d'été où les orages pètent. Je vérifie, je trouve les vieux documents de Météo France de ce jour-là, de ce lieu-là, et c'est marqué. Conditions exceptionnelles d'effet faune. D'ailleurs, je l'ai mis sur Quallon, je l'ai mis à l'intérieur, ce cas. Alors, je dis pas que du coup, c'est une vérité ce que j'amène, mais je me dis, waouh, c'est quand même très fort parce que j'étais complètement, théoriquement, je me dis, ça, c'est un effet faune, c'est sûr. Je vais rechercher les archives et je viens valider quelque chose qui amène pour moi plus de crédibilité au témoin, parce que le témoin, lui, n'était pas à même de m'expliquer ça. Mais ça rentre dans mon modèle. D'ailleurs, il explique bien comment le phénomène apparaît et disparaît. Et ça, encore une autre théorie scientifique qui vient expliquer la problématique des tachyons, qui sont des particules qui, du coup, apparaissent et disparaissent. On a l'impression qu'il y a une scission des deux, d'une particule en deux. Et lui, il le décrit. Et ça, c'est venu amener encore davantage de crédibilité. Après, ça reste spéculatif, j'entends. Mais c'est-à-dire que tout au long de mon déroulé de Quallon sur tous ces cas que j'ai pris, j'ai toujours trouvé des informations que personne n'avait trouvées, notamment sur les contextes tenseurs. Et c'est ça qui me fait dire que le modèle a le mérite d'exister. Il serait intéressant d'aller plus loin et que les gens de terrain le fassent aussi.
Alors, justement, je précise un point parce que je vais te taquiner et t'embêter beaucoup ce soir. Je vais volontairement un peu me faire l'avocat du diable sur certains points qui fait qu'on Je peux comprendre que quelqu'un n'y adhérerait pas s'il n'y a pas
Mais c'est tout à
réponse
ton
à ces
honneur.
différents.
Oui,
Voilà,
j'apprécie beaucoup.
c'est la démarche. Alors justement, on va poursuivre avec un point. C'est cette première partie. C'est tout le concept cosmogonique un petit peu de cette histoire, le concept d'infrafaune, mégafaune, supraphaune. Pourquoi je voulais qu'on parle de cette partie en premier? Parce que avant de parler de la déchirure du quallon, des contextes tenseurs et de tous les événements qui vont faire jouer entre ces plans, il est bien de comprendre l'architecture telle que tu la projettes. Parce que dans ton livre, tu exprimes une théorie sur ce passage du quallon, mais elle repose néanmoins sur une architecture cosmogonique. Et donc cette architecture cosmogonique, la première, est-ce que tu nous as présenté un petit peu comment elle fonctionne, c'est-à-dire les plans d'existence, sept plans d'existence hein, que tu stipules
7 fois
notamment,
7.
7 fois 7, d'où est-ce que tu prends cette cosmogonie? Est-ce qu'elle est de toi? Est-ce qu'elle vient d'autres personnes? Comment fonctionne cette hiérarchie cosmique un petit peu que tu parles? Est-ce que tu nous présentais un petit peu la cosmogonie de ton modèle?
Oui, d'accord. Oui, très bien. Alors moi, c'est pas de moi, parce que de mon point de vue, ce que j'amène, la nouveauté que j'amène, moi, dans Quallon, c'est vraiment les explications de comment ça rentre, comment le voile se déchire et les effets que ça a sur l'environnement. Et je fais ressortir vraiment le point d'entrée ou le point de sortie. Et là, j'amène une vraie plus-value, hein. Là, vraiment, sur les contextes tenseurs, c'est-à-dire ces zones d'instabilité de la réalité, j'y amène.
J'entends,
Voilà,
mais
ça,
ça, on
c'est
va
une
en parler
chose.
en deuxième partie.
Voilà. Par contre, la cosmogonie, parce que je peux répondre à ta question, effectivement, est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Non, mais bien sûr que non. Je pars d'une assise essentiellement théosophique, pas que, mais essentiellement théosophique quand même. Pour moi, c'est un modèle théorique qui permet de poser un canevas. Après ce canevas, je veux dire peut-être que dans 5-6 ans, il va évoluer. Mais en tout cas, ce canevas, il a le mérite d'exister et on verra peut-être après si tu me reposes la question, il a le mérite aussi d'être expliqué par des caterins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont expérimenté le passage derrière le quallon et qui amènent un descriptif qu'on retrouve dans les théories des livres de théosophie. C'est ça qui est intéressant, c'est que la théosophie propose un modèle et quand on écoute les gens qui vivent des phénomènes sur le terrain qui basculent de l'autre côté, il nous amène ces éléments, ça vient se recroiser. Et c'est pour ça que j'ai choisi le modèle théosophique qui est le suivant. On a sept plans généraux qui vont de la réalité de l'un, on va dire du père ou de la cause sans cause, hein, le tout premier plan a dit. Et puis on va remonter au sein. Alors ça c'est Alice, non, c'est Dion, oui, Alice Bailey dans son livre
Alice Bailey, oui.
Le traité sur le feu cosmique, qui nous montre, d'ailleurs, il est dessiné ce plan, et qui nous montre la place de l'homme dans cette réalité, et puis la remontée vers les plans, jusqu'au plan Adi. Et moi, dans ma théorie quallonienne, j'ai tendance plutôt à dire, c'est pas une remontée vers les plans, mais c'est une redescente vers les plans intérieurs. Ça, par contre, c'est ma spécificité d'avoir inversé le schéma de l'inverser, c'est-à-dire de partir du bas vers la cause sans cause et de remonter jusqu'à nous, en fin de compte, sur des plans de plus en plus matériels, à l'image d'un oignon dans lequel on a le germe central, et puis on va remonter jusqu'à la couche sèche de l'oignon, la partie vraiment sèche, qui est notre réalité physique. Donc on a ces 7 plans et à l'intérieur 7 sous-plans. Ça fait 49 plans en tout. C'est des plans, au début, c'est des plans de conscience. D'accord? C'est de la conscientisation. Plus on va remonter, plus on va avoir des adjonctions. Alors je vais aller plutôt sur le plan bouddhique. Je laisse les plans en dessous, mais on va remonter sur le plan bouddhique qui est à peu près à la croisée, au mi-chemin, où là on va nous expliquer qu'il y a l'âme. Il y a l'âme à cet endroit-là, mais que l'âme va projeter une émanation de lui et va les faire remonter encore de nouveau vers les plans qui vont être de plus en plus matériels. C'est-à-dire derrière ce plan de l'âme, le plan bouddhique, on a le plan mental subjectif, où là on a des archétypes, le plan mental objectif, qui va mener cette fois-ci une réalité plus conscientisable, parce que souvent c'est là que les gens qui font des sorties de corps, soit parce qu'ils décèdent l'espace d'un instant, soit parce qu'ils savent sortir de leur corps, ils nous dépeignent ces éléments qui sont encore compréhensibles. Puis le plan des émotions, où là on va adjoindre, en plus du plan mental qui nous amène l'espace, on va nous amener le temps, une notion de temps dans l'astral, alors un temps biaisé, mais un temps quand même. qui est important parce que les témoins d'OVNI, d'enlèvement OVNI, nous l'expliquent à leur manière. Et puis le plan éthérique, qui est un, entre guillemets, le plan qui va coller, qui va permettre à la matière d'accueillir la conscience, puis le plan matériel. Voilà en gros les couches que j'amène et que je vais essayer de faire coller dans mon modèle avec des réalités, les réalités des expérienceurs ou des témoins qui vont expliquer ce qu'il se passe lorsqu'ils perdent cette conscience, qu'ils basculent dans ces phénomènes. Et là, la théosophie, je trouve, au moins jusqu'au plan mental, la théosophie a l'air de répondre à ce que les témoins ou les expérienceurs racontent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette base qui peut évoluer un jour dans le temps. Peut-être qu'un jour, je dirais non, non, mais en fait, moi, maintenant, je vais vous redessiner mon modèle. Mais en tout cas, le plan théosophique, le modèle théosophique me paraissait intéressant parce que c'est l'un des rares, en tout cas de mon point de vue, qui nous amène énormément de suppositions que je peux ensuite aller gratouiller au travers des témoignages de phénomènes surnaturels. En fin de compte, c'est vrai qu'il y a l'ésotérisme, il y a la théosophie. Mais il n'y a pas de pont aujourd'hui avec les phénomènes que vivent les gens hors ésotérisme, hein, hors pratique ésotérique. On va dire tous ces témoins qui vivent des choses. Et ben quand je compare avec le modèle théosophe, ben, il y a plein de pistes. Et quand je suis ces pistes, ben j'arrive à Coilon. Et beaucoup de gens qui ont lu Coilon aujourd'hui me disent, tu as sûrement un des modèles les plus aboutis pour expliquer ce que nous, témoins, nous vivons et sur lesquels on n'a pas de réponse aujourd'hui.
Alors, je poursuis un petit peu sur ce concept théosophique. Alors, je précise un peu pour nos auditeurs, parce que c'est difficile de tout résumer, bien sûr, mais dans ton livre, tu ne parles pas que de la théosophie, puisque tu as une première partie un petit peu où tu vas comparer justement des modèles cosmogoniques. Donc, le modèle, par exemple, tu étudies celui de la Kabbale,
La
tu étudies celui
cabale.
de Pinel, notamment, sur un point de vue scientifique un petit peu différent. Donc, tu compares certains modèles pour essayer de voir leur point commun, en fait. Tout
Tout à
simplement, la
fait. Tout à
comparaison
fait.
religieuse et théologique, ça, c'est tout à ton honneur. C'est un exercice que j'aime bien pratiquer moi-même. À ce stade, donc, on peut quand même considérer dans ta démarche que tu as une adhésion toi-même, à titre personnel, sur le modèle théosophique en tant que système de croyance.
Parce qu'il répond à des cathérins, en fin de compte. Oui, à ce moment-là. Et parce que à un moment donné, le fait de partir sur le modèle théosophe a accéléré le niveau de mes recherches, en fin de compte. On connaît mon travail, on connaît Bragi depuis 5 ans. Or, ça fait 25 ans que moi, je triture un peu tous les modèles possibles, tous les livres, je lis énormément. Et au moment où on m'a fait découvrir la théosophie, bah, c'était dans le cadre de mes enquêtes de terrain, c'est mon ami Patrice qui m'a dit, écoute, tu devrais t'intéresser à la théosophie. C'est là que ça s'est accéléré, c'est là que les modèles théoriques de la théosophie, en tout cas ceux du traité sur le feu cosmique d'Alice Bailey, ces modèles-là m'ont permis de tout doucement expliquer ce que je constatais sur le terrain. C'est pour ça que je l'ai choisi, pas par croyance, mais parce qu'il débloquait des modèles.
Je vais te citer un exemple que je trouve intéressant. C'est dans le système des expériences de mort imminente, les EMI. Le problème souvent avec un modèle cosmogonique, moi j'ai mes propres croyances aussi, et ce en quoi j'adhère, et il y a d'autres systèmes qui ne sont pas tout à fait identiques aux miens, ressemblent parfois. Les expériences de mort imminente, dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans 99,9% des cas, c'est des cas qui sont référencés principalement en Occident, en Amérique du Nord, et dans un cadre de croyances chrétiennes ou culturellement chrétiennes. Ce qui veut dire que les gens voient un tunnel de lumière, voient soit Jésus, soit des anges ou autre chose, et on va dire facilement, vous voyez, c'est la preuve de la validité d'un au-delà, d'un paradis et d'un concept d'ange, voire de Jésus ou de Marie. Sauf que, si on va au Tibet, on va s'intéresser au bouddhisme ésotérique tibétain, et ils ont exactement la même chose que les expériences de mort imminente, mais ça s'appelle le déloc. La seule différence étant que nous, dans les modèles chrétiens, l'expérience de mort imminente, il y a Jésus. Et alors, évidemment, vu que c'est une expérience de mort imminente, on revient dans le corps, donc on ne meurt pas vraiment, mais sinon, l'idée, c'est que le tunnel de lumière, il faudra suivre Jésus pour aller au paradis, alors que dans le bouddhisme, la même expérience, on dit, attention, quand tu vas voir le Bouddha, ne le suis surtout pas, c'est des illusions. Donc, on a la même scène, mais deux croyances qui font qu'on l'interprète différemment. Si tu vois ce que je veux dire un petit peu.
Tout à fait, c'est très clair dans mon esprit, je peux aller plus loin après pour argumenter, hein, il n'y a pas
Ben
de problème.
justement, c'est tout l'intérêt.
Eh ben, ce qui montre que là, si on prend le modèle cosmogonique théosophe, ces gens sont sur l'astral. L'astral, c'est le plan des émotions, c'est le plan de la croyance. Et l'astral, c'est un plan sur lequel on va modeler nos croyances, en fin de compte. C'est un plan qui réagit à l'émotion, qui réagit à la croyance. Du coup, effectivement, un Asiatique va y voir quelque chose et puis un chrétien d'Occident va y voir autre chose. Pour moi, il n'y a pas comment dire, d'antagonisme dans ce que tu viens de dire. Ça montre justement qu'à l'image des phénomènes surnaturels qui, eux, rentrent dans la réalité, eh ben, à l'inverse, l'expérienceur qui, lui, va rejoindre ces archétypes, va rejoindre cette faune, entre guillemets, ben, il va lui-même dessiner sa réalité. Et c'est la même chose quand on va en Asie, au Japon, par exemple. Les cas ufologiques japonais ne sont pas les cas ufologiques européens ou les cas ufologiques américains. On est dans la même logique. C'est l'esprit du consciencieux, enfin de la conscience de la personne, de celui qui fait l'expérience, qui vient modeler une matière brute et vient lui amener cette croyance. Plus on est en croyance, plus ces phénomènes vont se parer d'archétypes, vont se parer de symbolisme pour répondre. Pourquoi? Parce que si conscience exogène il y a derrière, ils sont dans l'incapacité d'apparaître tels qu'ils sont. Parce qu'ils sont, ils sont, mais ils ne sont pas objectivisés, ils ne sont pas temporalisés, ils ne sont même pas dans l'espace en fin de compte, mais c'est leur remontée, un peu comme si pour il y a une expérience, il y a eu des cas dans le spiritisme victorien où on demandait à des esprits d'apparaître, ils utilisaient le périsprit ou de l'ectoplasme pour comme un gant pour venir montrer leurs mains en fin de compte, parce que sinon ben, ils n'étaient pas capables de se manifester. Il fallait d'ailleurs un lien avec le médium pour générer cet ectoplasme. Et ben on est dans la même chose, on est au même niveau, c'est-à-dire que d'un côté les phénomènes qui sortent et qui sortent vers l'extérieur, vers nous, se parent d'un gant pour exister. Et ben le gant en fonction du pays va pas être le même, hein, ils vont se parer d'archétypes, d'une image liée à la croyance. Alors, soit de l'individu, soit carrément du peuple, c'est comme s'il y avait un effet égrégorique local dans le terroir, en fait, dans le terrain. D'ailleurs, les expériences mariales le montrent, hein, quand Marie apparaît à un certain endroit, elle se pare du vêtement local. Et ben là, on a la même chose. Et à l'inverse, dans l'effet miroir, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, et ben quand on rentre dans cette réalité astrale, et ben l'astral va venir se modeler autour de la conscience pour donner non pas de la vérité, mais un sens à la personne qui vit le phénomène. Un sens. Et ce n'est pas une vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les guerres de clochers, les guerres d'église autour de ces phénomènes n'ont pas de sens. Parce qu'il y a autant de vérité pour chacun. C'est de comprendre que chacun a sa recherche de sens et donc le phénomène va apparaître, qu'il soit d'un côté ou de l'autre côté du Kualon, pour faire sens à l'individu.
Je vois où tu en venir, mais c'est là que je pense que tu as esquivé ma question.
Dis-moi.
Quand je comparais l'expérience de mort imminente et le déloc tibétain, j'étais pas en train de dire que c'est leur croyance à eux qui influençait la vision. Il est évident qu'on voit Jésus ou Bouddha ou un bodhisattva par rapport à un cadre culturel dans l'imagerie, et donc la vision est différente. Ce que je voulais dire, c'est la vision, en fait, c'est la même. C'est juste que les symboles, les couleurs sont adaptés au cadre. La vision, c'est la même. Et ça amène à l'idée d'un
Oui.
archétype, c'est passionnant. Mais en revanche, le constat de croyance fait que la réponse face à ce phénomène n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'un des enseignements, la vérité qu'on te propose, c'est de dire suis Jésus, et dans l'autre vérité, ne suis pas. Tu vois ce que je veux
Je
dire?
vois.
Donc
Bien
en
sûr.
gros, on a la phénoménologie objective, si tout le monde la voit, doit bien y avoir quelque chose. Mais en revanche, et c'est là que l'importance du système de croyance que je te demande est importante, puisque suivant notre propre système de croyance, ça influe notre lecture des événements surnaturels. C'est pour ça que je veux te demander ça. Il ne s'agit
Ok.
pas de savoir qui a raison entre le déloc ou
Non,
le M
non,
imminent.
non, j'entends. Après, donc toi, tu t'inscris dans la différence entre le suivre ou pas le suivre, c'est ça?
La différence entre les deux expériences, c'est que dans l'une, il faut suivre, dans l'autre, il ne faut pas suivre.
Exactement. Après, c'est vrai que dans le bouddhisme, on parle des illusions. Elles sont clairement, elles font partie inhérente du cheminement des bouddhistes. Hein. C'est de détruire les illusions. Donc après, leur démarche, effectivement, face à ce phénomène, hein, elle est liée ensuite à leur système de réflexion, de pensée, oui.
Et donc, voilà justement ce que je voulais dire, c'est par rapport à toi, vu que tu adhères en croyance à ce modèle théosophique, puisqu'il répond à tes modèles,
Alors non,
il...
j'adhère pas. C'est pas que j'y crois. C'est que j'avais besoin d'un cadre. Moi, il fallait bien que je parte de quelque chose. Après, dans Kwa Long, j'ai mis en parallèle le modèle d'Émile Pinel, le modèle de la Kabbale, et le modèle effectivement le modèle théosophe. Ce que je voulais faire apparaître, c'est cette notion effectivement de remonter vers les plans physiques et de redescendre ensuite vers les plans subjectifs dans un modèle de ruban de Möbius en fin de compte, avec si on prend le modèle Pinel, un champ H2 qui est le champ, on va dire, du Fils, si on prend les logiques catholiques, c'est-à-dire celui qui est ancré dans la réalité physique, qui est incarné, qui fait l'expérience de l'espace et du temps. Et ce champ H2 répond au champ H1 qui est le Père, donc on va dire la réalité subjective. Mais entre les deux, il y a besoin d'une cohésion. Et cette cohésion, c'est le champ H3, c'est-à-dire cette espèce de matrice. Et cette matrice, pour lui donner une forme, j'ai choisi un modèle, le modèle théosophe, et cette matrice aurait pu être la Kabbale si j'étais plutôt dans la logique kabbalistique, si tu veux. Mais ce
Ah oui,
n'est
non, je
pas une
comprends.
croyance, c'est pas une
C'est...
croyance.
D'accord.
J'avance sans croyance, justement. C'est-à-dire que pendant des années, quand j'étais adolescent, j'ai lu des livres, on m'a expliqué que les ovnis, c'était des extraterrestres, c'était du tolé-boulon, et les cryptides, c'était des animaux qu'on n'avait pas encore référencés. Ou alors que les phénomènes inexpliqués, c'était des fantômes. Or, quand moi je vais sur le terrain et que je regarde ce qui se passe, ben, je me rends compte que c'est pas du tout ce qu'on nous expliquait dans ces bouquins. Donc j'avais besoin de recréer un modèle tout propre, tout neuf. C'est pour ça que souvent on me dit ce que tu amènes, c'est différent, parce que je ne voulais pas adhérer à une croyance. Mais il fallait bien que je me mette. Mais c'est comme dans les phénomènes, enfin comme les phénomènes inexpliqués. Il faut bien un archétype pour que la conscience subjective qui rentre et qui fait face à un témoin se pare de quelque chose. Il faut qu'on ait quelque chose devant nous pour faire l'expérience et la réflexion. Mais ce n'est pas une croyance. Ma
Donc en...
théosophie n'est pas une croyance pour moi.
si je comprends donc mieux la démarche, en fait, la théosophie te sert de cadre illustratif pour ton
Jusqu'à
modèle, en
trouver
fait,
mieux.
plus.
Jusqu'à
Ouais,
trouver
jusqu'à
mieux.
trouver. D'accord, je comprends. C'est plus clair. Alors, pour poursuivre un petit peu au-delà de la théosophie, justement, il y a ces trois éléments qui vont représenter les grosses parties de ton livre. C'est l'infrafaune, la médiafaune et la supraphone. Alors, bien avant de parler du Kwailon à proprement parler, c'est-à-dire qui permet de passer de l'un à l'autre, de le déchirer ou ce que l'on veut, c'est quoi concrètement pour toi, dans ton explication, ce que tu vas définir comme l'infrafaune, la médiafaune et la supraphaune?
Ok, ça marche. Alors, juste avant de commencer, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ma vision peut bouger. C'est-à-dire que peut-être qu'au fur et à mesure que j'avance, je n'ai pas de croyance, justement. Pour l'instant, j'ai un modèle. Infrafaune. Infrafaune, j'ai remarqué, mais ça, beaucoup de gens l'ont remarqué, qu'il y a des phénomènes qui sont quand même beaucoup plus sombres. Il y a des phénomènes presque parasitaires. Dans l'ufologie, on va trouver des phénomènes comme le cas du Mothman, par exemple, cette créature mi-homme, mi-papillon, qui aurait sévi à Point Pleasant, en Virginie-Occidentale, dans les années 60. Ou le Dogman, d'accord? Dans le cadre de ces phénomènes, lorsque j'ai étudié les contextes tenseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la nature, à ce moment précis, localement, a fait que des phénomènes sont d'un coup arrivés et ont fini par disparaître? Lorsque je vérifie ces éléments, je me rends compte que c'est souvent, enfin c'est pas souvent, dans le cas de parasitaire, dans le cas de l'infrafaune, qui est pour moi un phénomène plus parasitaire, on a un détournement de tension du milieu qui sont liées à la pollution humaine. C'est-à-dire que c'est une violation des règles naturelles par un phénomène qui utilise des contextes tenseurs créés par des polluants humains. Dans le cas du Mothman, par exemple, tout était centralisé autour d'une usine de stockage de poudre noire. Et les lessivages, parce qu'il y a des écoulements, ont créé un acide. Et cet acide a créé un courant électrochimique dans le sol. C'est ma théorie, hein, qui ont fait que tout a tourné autour de la zone TNT. On appelait ça la zone TNT. Donc il y a un phénomène parasitaire. Quand j'ai étudié les cas Dogman, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous dans des milieux marécageux et qui plus est pollués par l'activité humaine, avec des écoulements de polluants qui amenaient une forme d'électrolyse du sol Et puis, bah, avec les minéraux du sol, on a une anode, une cathode, par exemple de l'aluminium et du fer, crée anode cathode, on a un courant électrique, la membrane du coulon se dérègle, on a une inversion de polarité que j'ai démontrée sur le terrain et une résurgence d'un coup de phénomène. Tous ces cas-là étaient parasitaires, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des environnements pollués par l'homme. Comme s'ils violaient la réalité, ils trouvaient un moyen de rentrer. À l'inverse, le phénomène Bigfoot, c'est incroyable parce que ces deux cas, Dogman, Bigfoot, c'est en parallèle, c'est quasiment la même chose. Ils sentent la même odeur, une odeur de soufre. D'ailleurs, certains ovnis sentent aussi ce soufre. Il peut avoir de l'agressivité, mais plus chez le Dogman que chez le Bigfoot. Et sur le Bigfoot, le modèle que j'ai trouvé, il est lui lié à une acidification du sol naturel par les conifères, qui crée ce qu'on appelle un podzosol. C'est une, comment dire, une dérégulation du sol qui fait que tous les minéraux partent en profondeur et j'ai une couche de cristal de roche piézoélectrique qui crée, en plus de l'électrolyse qui va être amenée, une forme de tension, donc de la membrane du coulon, mais par un phénomène naturel. C'est comme si j'avais des créatures qui utilisaient. Et le dogman ne fait jamais ça. Le dogman, il est toujours dans les sols pollués. C'est assez fou.
Alors,
C'est comme.
je vois que tu es loin, mais tu vas trop vite. Parce que tout ça,
Ouais,
on
je
est
sais.
censé en parler en partie 2. Moi,
Donc,
justement, je
oui,
viens
tout
de
ça
cibler.
pour te dire. Alors,
Quand je dis
je m'arrête.
l'infrafaune, c'est qui et quoi, en fait?
Oui. Donc, pour moi, jusqu'à un certain moment, je m'étais dit, on a des phénomènes qui montrent qu'ils piratent la réalité par les activités humaines pour rentrer. Et en plus, ce qu'ils amènent, ce qui fait face aux témoins n'est pas, est très noir. Ça fait peur. Il n'y a pas une communication avec un discours qui est tenu. On est sur de la peur pure, en fin de compte. On est sur une forme de rapport de le témoin face à une créature sauvage, mais à moitié humaine. Donc on a un rapport vraiment de peur. Il n'y a qu'un travail autour de la peur et du symbolisme de la créature sauvage face aux témoins. Et puis on a les phénomènes de supraphone, où là souvent dans les cas d'OVNI, on a un personnage qui arrive d'une soucoupe ou qui apparaît spontanément et qui vient tenir un discours, qui vient amener de l'information. Typiquement, je t'avais dit tout à l'heure, quand la créature expliquait inversion de polarité, machin truc, le témoin revient avec des données qui vont être exploitables et qui vont faire avancer les choses. En tout cas, qui vont provoquer chez le témoin des comportements nouveaux, un intérêt pour la spiritualité, un intérêt pour l'environnement, pour ses pairs. Il y a un effet positif sur la supraphone, alors que sur l'infraphone, il y a un traumatisme, clairement, il y a un effet traumatique. Et comment expliquer? Parce qu'en plus, ils utilisent tous la même logique pour rentrer, selon mon modèle, je remarque qu'il y a une rentrée en utilisant les contextes tenseurs. Moi, je pensais à une époque, j'étais dans une croyance, où je pensais que la supraphone pouvait apparaître quand elle voulait, où elle voulait, parce qu'elle maîtrisait tout. C'est logique au final, tu dis s'ils ont de l'évolution, s'ils ont passé tous ces caps, ils maîtrisent tout. Et à ma grande surprise, je me suis dit, ben non, tous ces phénomènes, infraphone ou supraphone, utilisent des contextes tenseurs qui arrivent spontanément dans la nature ou par pollution. Ils utilisent ces portes d'entrée. C'est comme s'ils ne maîtrisaient pas ça, ils ne maîtrisaient pas, en tout cas la supraphone ne maîtrisait pas non plus. C'est pour ça que tout doucement, mon modèle a évolué, mais on en reviendra peut-être après. Bon, là, on va faire simple, mais mon modèle a évolué, hein, encore depuis. Donc, on va dire infraphone, des éléments de piratage de réalité par la membrane du coulon. Ils utilisent plutôt la pollution humaine, hein, centrale nucléaire, acidification des sols, etc. De l'autre côté, on est sur des phénomènes naturels. Un volcan qui va rentrer en éruption, on va avoir des orages pyro enfin on va avoir des orages liés aux fumerolles du volcan, et là on peut voir des ovnis sortir des volcans en éruption. Mais en fait, c'est pas qu'il y a une base extraterrestre, c'est que la membrane s'est ouverte à cet endroit-là, en fin de compte. Et la médiaphone au centre, la médiaphone, c'est l'homme. C'est celui qui fait un peu le pont entre les deux, qui subit en fin de compte aussi bien l'un que l'autre. C'est presque le petit diable d'un côté de l'épaule et le petit ange de l'autre côté. Mais pour l'instant, c'est très caricatural ce que j'explique. Aujourd'hui, je commence à nuancer les choses, hein, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça pour l'instant que je pose ce modèle qui évolue, hein, qui est en train d'évoluer.
Alors, du coup, c'est intéressant parce que le modèle que tu expliques, tu vas tout de suite, quand tu parles de l'infrafaune et de la suprafaune, tu vas tout de suite dans des référents pour expliquer les phénomènes, c'est-à-dire les éléments, les contextes tenseurs, pour leur apparition. Mais quand on explique assez vulgairement, en t'écoutant, du moins, bah, en fait, on a l'impression que tu es en train d'illustrer les anges et les démons,
Ouais,
très vulgairement.
oui,
Donc,
bien
du
sûr,
coup,
bien sûr.
je serais tenté de dire à ce stade, pour l'infrafaune, supraphaune, pourquoi utiliser les noms infrafaune et supraphaune plutôt que de parler enfer, paradis ou d'autres termes suivant d'autres cadres religieux, par exemple, ou parler, par exemple, l'arbre de Séphiros que tu as cité tout à l'heure et le cliphote en dessous, par exemple.
Mais parce
Pourquoi
que
inventer de
justement,
nouveaux termes?
bah parce que justement, je veux sortir de ça. Tout à l'heure, tu as essayé, en me questionnant, hein, de me dire, voilà, ta croyance donc est théosophe. Et je t'ai dit non, c'est un modèle que j'utilise. Alors, justement, je ne veux pas rentrer dans des schémas déjà existants pour pas être accroché. Et ça, par exemple, tu vois, quand j'ai travaillé sur le Dogman, on m'a accroché l'étiquette de cryptozoologue. Je ne veux pas être accroché, je ne veux pas être attaché à ufologue non plus. J'essaye d'amener un modèle de compréhension. Donc, des moments, pour moi, il est intéressant, peut-être plus sain, d'employer des nouveaux termes, tout neufs, tout propres, pour éviter de raccrocher aux croyances, typiquement. Tu vois, tout à l'heure, moi-même, j'ai parlé du petit ange, du petit démon, parce que j'ai senti que c'était un raccourci facile pour que
Oui,
les
ça
gens
permet
comprennent.
d'illustrer.
Tu vois? Sauf que non, employer des nouveaux mots, ça permet aussi d'employer de nouveaux concepts et de faire rentrer les gens, presque effacer le tableau pour aller de l'avant et pas rester enfermé dans les croyances. Parce qu'aujourd'hui, mon modèle sur l'infrafaune-suprafaune est en train d'évoluer, justement, est en train d'évoluer de
Alors,
plus en plus.
moi, je trouve très intéressant l'usage des termes infrafaune et supraphone. Je gratte, hein, volontairement, mais je trouve les termes intéressants pour une raison simple, c'est que ça sort un peu de la binarité, justement, avec le côté méchant
Exactement.
démon ou le gentil ange. Et que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu à la lecture de ton livre et même des précédents. Pour moi, l'infrafaune, j'y vois un monde souterrain obscur avec des créatures, un petit peu, c'est-à-dire le Dogman, cryptides diverses et variées, les petits gris version extraterrestre, tout ce qui va en fait avoir un aspect, et c'est pour ça que j'emploie pas tes termes dans mon usage courant, j'emploie le terme de grec de monde chthonien en l'occurrence,
Oui, bien
parce
sûr.
que c'est chthonien, c'est primaire, c'est quasi animal dans certains aspects, et que dans l'infrafaune, c'est quelque chose de plus céleste, sans émotion, c'est pas émotif, c'est conceptuel. C'est un peu
Exactement.
ça ou je me trompe
Oui,
dans ton
mais
usage courant?
clairement, clairement, tu as raison. Et là, je vais aller plus loin un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu comment je bascule au fur et à mesure. Moi, je pense que de plus en plus, plutôt que d'employer, effectivement, d'avoir l'image de créatures réelles, d'un côté ou de l'autre, la notion d'archétype va répondre davantage en cohérence avec ce que vivent les témoins. Je pense que, en fonction du témoin, effectivement, les archétypes, il y a des archétypes qui vont être beaucoup plus infraphoniques, ou infraphonistique, ou beaucoup plus supraphonique ou supraphonistique, peu importe, parce qu'il s'adapte à l'observateur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus le chemin que je suis en train d'amener. Je pense qu'on n'est pas sur des créatures réellement parasitaires. Je pense que c'est de nouveau un masque. De plus en plus, hein, je commence à vraiment à le voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a débloqué? Alors, ça, c'est un truc de fou. Alors, j'ai travaillé pendant un petit moment parce que voilà, j'avais de bonnes relations avec Geneviève Delpech, que tu dois connaître un petit peu.
Je connais, ouais. Enfin, pas
Voilà.
personnellement, mais je.
Voilà. Non, mais en tout cas, elle était venue suite à ma présence sur Nuria TV parce qu'elle-même venait sur Nuria. Et puis, on a discuté ensemble. Et puis, un jour, enfin, plusieurs fois, elle a fait des rêves. Est revenue vers moi avec ses rêves en disant, voilà, j'ai vu quelque chose pour vous, j'ai un message à vous faire passer. Par exemple, pendant que j'écrivais Quallon, pour te montrer vraiment la nature de la personne, que vraiment il y a quelque chose qui est très crédible, j'étais en train de terminer Quallon. J'ai parlé d'une quarantaine de cas, je crois, hein, je n'ai pas référencé 40 ou 50 cas, je sais plus, hein. Mais personne ne sait sur quoi je travaille. Cette dame-là revient vers moi. Mais elle me dit, Bragi, j'ai des coordonnées Google Maps à vous donner. Alors ça, c'est quelque chose qui est très classique chez les médiums. Quand ils sont en contact avec moi, ils me donnent des coordonnées Google Maps. Ils se connaissent pas entre eux, mais je reçois des coordonnées Google Maps. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà, ça doit s'expliquer, hein, derrière. Elle me donne des coordonnées Google Maps. Elle me dit, c'est un dogman qui me dit de vous donner ça. Il est assis sur un monticule, une espèce de roche. Il me dit, il faut creuser. Moi, j'allais éditer Quallon 15 jours, enfin, même pas une semaine après. Hein. Je tape ces coordonnées Google Maps. Ça m'envoie sur l'un des cas que j'étudie dans Quallon. C'est quand même dingue.
Oui, mais je te crois, mais on est toujours dans le cadre du témoignage.
Alors,
C'est pareil.
bon, ok.
Tu comprends la limite, en
Derrière,
fait.
oui, j'entends. Derrière, alors c'est pas pour ça que donc ça c'est pour vous montrer que voilà, cette personne-là, je la prenais quand même plus ou moins au sérieux parce qu'elle savait pas ce que je faisais. Elle m'envoie un moment un courrier. Elle dit voilà, j'ai rêvé d'un dogman et elle m'envoie le courrier. Et c'est là que ça m'a débloqué ma vision de l'infrafaune. Parce que là, ça marque, c'est un dogman qui parle et qui explique qu'il est à la fois, il est l'homme dans sa bestialité. Il dit, je suis l'homme dans sa bestialité, je suis aussi l'animal qui courait dans vos forêts lorsque l'homme n'avait pas encore tracé son chemin, ses chemins dans la nature. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience quand même, parce que j'ai un autre ami qui étudie des cas japonais, des cas de cryptides japonais. Et au Japon, ces cas apparaissent souvent lorsque une montagne sacrée va être violée par des bûcherons, par une entreprise qui veut aller rentrer dans un lieu sacré. À ce moment-là, ces créatures bipèdes, anthropomorphes, pardon, rentrent face aux témoins et se montrent. Et là, je me dis, au final, c'est pour ça que je racontais tout ça, en fait, Ludovic.
Oui,
Je
d'accord.
commence à me demander si au final, il n'y a pas d'infrafaune, il n'y a pas de suprafaune. Si, quand on étudie comment ils rentrent, il y en a un qui étudie sur les sols pollués, qui apparaît sur les sols pollués, mais peut-être justement pour donner une leçon en disant ça, c'est un lieu sacré, ça, c'est un lieu spirituel, en fin de compte, c'est un contact avec la spiritualité, vous ne pouvez pas aller là. Ça, c'est pour faire des temples, c'est pour conscientiser votre spiritualité profonde. Et à l'inverse, pour les gens qui sont prêts à entendre quelque chose, à basculer dans leur vie sur quelque chose de plus haut, le phénomène supraphonistique, entre guillemets, va apparaître et va donner de l'information à cette personne qui est sur un chemin de vie, qui a besoin de ça pour aller plus loin ou peut-être pour donner un message à un plus grand nombre. Voilà pourquoi je te parlais de tout ça, hein, que j'ai pris en compte avec sérieux ce que cette dame m'a écrit parce que ça a été non pas une vérité, mais ça m'a permis de réfléchir, d'avoir une réflexion différente.
D'avancer, oui, bien sûr.
C'était ça surtout.
Oui, d'avancer. Alors là, tu as dit une chose qui est intéressante, toujours un petit peu dans cette première partie pour comprendre le contexte global. La question que j'allais te poser, mais tu y as partiellement répondu, c'est pourquoi les contacts ne sont pas permanents? En gros, pourquoi l'infrafaune ou les créatures un peu ténébreuses n'apparaissent pas un peu partout, n'importe quand? Pourquoi la supraphone, un peu angélique, pour caricaturer, ne se manifeste pas un petit peu partout? Et souvent, il est très habituel, quand on s'intéresse un peu à l'ufologie, les gens nous disent, oui, il y a un ovni qui est apparu au-dessus d'un silo, à missiles nucléaires, par exemple, ou au-dessus d'un site sacré, à telle date, telle heure, etc. Tout ça. Mais la question que je vais te poser, c'est en gros, pourquoi ça marche que quand on parle? Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Je m'explique.
La reproductibilité.
C'est ça. C'est-à-dire, et même plus que la reproductibilité, c'est-à-dire que les ovnis qui apparaissent sur un site nucléaire pour prévenir un événement cataclysmique, suffit de regarder l'histoire de l'humanité et on s'aperçoit que les cataclysmes existent, arrivent. Et en fait, si on voit un ovni sur une centrale nucléaire ou sur 10 centrales nucléaires, c'est omettre le fait que sur les milliers et les dizaines de milliers d'autres cas, il s'est rien passé. Donc,
Exactement.
du coup, que peut-on dire de ça?
Bah, c'est une âme, ouais.
Pareil
Pardon.
sur par exemple une forêt, tu parles de la forêt au Japon notamment, des suicidés, il se passe des phénomènes, mais c'est omettre tous les gens qui y vont et qui leur arrive rien. Alors comment on peut répondre à cette problématique en gros? C'est ça que je voulais te demander.
D'accord. Alors, déjà, bon, tu donnes l'exemple en ufologie des quatre silos missiles nucléaires, les centrales nucléaires, et donc l'explication naturelle de l'homme, très très anthropocentrée, c'est de se dire tout tourne autour de moi, tout tourne autour de mes activités, ce qui est faux, ce qui est faux. Je montre que dans Quallon, je montre que les centrales nucléaires sont des zones de contexte tenseur. Par ce qu'on y fait, effectivement, on crée un déséquilibre dans la matière, ça crée une tension. une inversion de polarité, puis ça sort. En fait, c'est juste parce qu'il y a possibilité de sortir que ça passe à ces endroits-là précisément. Il n'y a pas de surveillance du nucléaire. Il y a juste, regarde quand il y a eu l'incident de Fukushima, il y a eu des ovnis qui ont survolé, il y a eu des gens qui en ont vu. Parce qu'il y a un moment, il y a un contexte tenseur qui naît, et puis bah du coup, il y a possibilité de rentrer, donc ça rentre, hein, en fin de compte. C'est comme dans la vallée de Esdalen, par exemple, en Norvège, où c'est récurrent parce que c'est un phénomène cyclique. Et tenseur quasiment en continu. Donc ces phénomènes sont présents à cet endroit-là. Il y a une porosité naturelle qu'on va retrouver sur le mont Bugarach, qu'on va retrouver dans la forêt de Holalbashu, qu'on va retrouver sur le mont roumain Butchegi, qu'on va retrouver quelquefois en forêt de Brocéliande, au mont Saint-Michel. Il y a des moments où il y a un contexte tenseur. Et donc là, c'est facilitateur. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi la conscience de l'individu. Tout le monde ne peut pas en voir à chaque instant. Parce que il y a, et ça serait mal connaître, l'architecture de l'homme. Et d'ailleurs, dans la théosophie, on en parle, hein, on parle de plan mental, plan astral, d'éthérique et de physique. Le microcosme humain, le corps humain, l'individu fonctionne de la même manière. Pour qu'un individu se connecte à un phénomène, il faut une tension intérieure. Et cette tension intérieure, elle va être amenée par l'émotion, mais un émotionnel bien particulier, non mental. Non mental. Parce que le mental tue l'émotion. Et c'est l'émotion qui est le carburant de ces phénomènes. C'est pour ça que moi, avant, qui ne connaissais que le milieu rural, qui connaissais peu de gens issus, pas du tout même de gens issus des mondes artistiques, depuis que je fais mes recherches, que je suis en contact avec des témoins, je connais un chanteur, ou une femme de chanteur, je connais un danseur de rue, je connais un artiste peintre, je connais un guitariste. Mes amis qui connaissent mon travail, qui sont en contact avec moi, ce sont quasiment que des artistes ou des gens ultra sensibles, parce que il y a dans l'être humain un facteur enclenchant, un contexte tenseur enclenchant que j'explique dedans avec une inversion de polarité intérieure qui crée un dérèglement au sein même du quallon de l'individu, ce qui fait qu'un phénomène peut être lié à un territoire, mais un phénomène peut être lié à une personne qui se déplace de maison en maison et qui va générer des phénomènes peu importe où il est.
Mais j'entends. Après, par contre, pour le notion du réseau de gens que tu côtoies, par exemple, il y a une explication aussi beaucoup plus pragmatique, qui est que par ta notoriété, maintenant, parce que bon, quand même un peu d'audience sur Internet, tu as écrit des livres, etc., tu as un public, ça va toucher un public aussi différent. Donc ça explique aussi la dynamique. Alors, ce qui contredit pas forcément ce que tu dis, mais
Non,
c'est que
parce
ta
que du
propre dynamique à toi va forcément engendrer aussi.
Bien sûr, tout à fait.
C'est logique
Mais
aussi.
moi, dans les premières années avec le GEPI, où je connaissais personne, les premiers cas qu'on a étudiés, alors quand c'était des cas citadins, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup sur Paris, ben je découvrais des professeurs d'art, des professeurs de théâtre, et ces gens-là nous racontaient ce qu'ils vivaient parce qu'ils nous appelaient pour qu'on vienne pour les écouter. C'est là que j'ai commencé. C'est dans mes rencontres spontanées des témoins que j'ai rencontré ces artistes. Pas parce que j'étais connu et que des gens sont venus vers moi. Hein.
Oui, j'entends tout à fait, oui.
Voilà, il y
Mais
a un peu de
bon,
ça
ce que je veux
aussi,
dire,
hein,
c'est
tu as
que
raison, Ludovic, hein. Il
c'est
y a un peu
très
de ça aussi.
difficile d'auto-analyser nos propres dynamiques, parce qu'on est des êtres en évolution, sachant, on est d'accord. Et donc, de ce
Bien
fait,
sûr.
il est évident que je ne rencontre pas les mêmes personnes dans ma vie aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, ce qui
Oui,
est tout à fait
mais je
normal.
parle de témoins, moi, je ne parle pas de
Oui,
connaissances, je parle de témoins. Hein.
j'entends. Mais ce qui est logique, parce que quand tu es plus accessible, plus visible, les gens te trouvent plus facilement aussi,
Bien sûr, bien
cercle de
sûr.
dynamique, etc.
Tout à
Autre
fait.
question, toujours, il m'en reste deux à te poser dans cette cosmogonie globale un petit peu. Là où j'adhère grandement à ta théorie, c'est sur la non-matérialité des phénomènes. Ça, c'est ma croyance personnelle. En revanche, toi, tu vas plus loin en te disant qu'en gros, il y a matérialisation des phénomènes. Si je dis pas de bêtises
Il
sur
y a
ce point.
cristallisation d'une réalité effectivement qui va interagir avec les lieux. Hein.
Ne va pas trop loin
Pardon?
parce que c'est pas
Oui,
ma
pardon.
question, c'est juste le début. Pour toi, il y a une forme de matérialisation. Alors, tu pourras nous préciser un petit peu les contours de ce que tu entends par matérialisation. Mais qui dit matérialisation dit trace. Donc, pourquoi ne trouve-t-on pas spécialement de traces?
Ah si, des traces, on en trouve sur de nombreux cas d'OVNI où on a parlé d'atterrissage, on a retrouvé des traces dans le sol d'éléments. Sur le Dogman, il y a eu des traces, effectivement, de. Alors après, c'est toujours faire confiance aux témoins, hein, on est d'accord, hein, on part toujours de
Ah,
ce
et
principe,
confiance,
hein. Attention,
sur ma
hein.
chaîne, on ne fait pas confiance aux témoins. C'est la
Voilà,
base de la base, je ne fais pas confiance aux témoins.
mais la multiplicité des témoignages, dans cette multiplicité de témoignages, il y a des cas de traces. On ne peut pas balayer cette masse de témoignages, que ce soit en cryptozoologie, en ufologie, ou même dans le cadre, par exemple, du spiritisme, lorsque des médiums avec témoins présents, des gens qui voyaient des choses se manifester dans la réalité. D'ailleurs, il y a des moulages d'empreintes de soi-disant fantômes qui sont imprimés dans du plâtre, hein, qui sont d'ailleurs gardés encore, je ne sais plus quel est le nom de cet institut, mais c'est gardé, il y a des traces, c'est référencé. Il y a bien une interaction entre le subtil et le matériel via des traces physiques. Donc on ne peut pas, pour moi, rejeter et dire c'est purement onirique. C'est-à-dire que la personne rentre dans une bulle de rêve, hein, vit quelque chose qui a du sens, qui lui amène de l'information complémentaire, c'est-à-dire qu'elle en ressort avec des données. Et ça, ces données-là, elles sont ancrées dans l'individu, hein, il est différent entre le avant et le après. Mais pour moi, il n'y a pas que ces cas-là. Il y a aussi des cas de cristallisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout antagoniste avec la création de notre réalité physique tirée du Big Bang. Parce que si je creuse, moi, dans mon langage, le Big Bang est un super contexte tenseur qui a fait émerger, cristalliser une réalité matérielle, c'est-à-dire la couche la plus sèche de la réalité cosmogonique que je présente dans le livre. Elle est bien là, on l'explore aujourd'hui, tous les jours. Et pourtant, les scientifiques, quand ils creusent cette matière, ils se disent, oui, il y a, quand on creuse à un moment, on ne sait plus ce qu'il y a derrière, mais il y a quelque chose, puisqu'il y a quand même cette matière devant nous qu'on expérimente. Il y a beaucoup de vide, et à l'intérieur, il y a autre chose. Donc là, je dirais, c'est un cercle vertueux. On vient raccrocher par les phénomènes inexpliqués, on vient expliquer que le Big Bang était un phénomène inexpliqué qui a fait apparaître des créatures de l'infrafaune, peut-être. Enfin, nous, enfin, la vie, quoi.
Mais sur cette notion de matérialité, c'est très délicat. Alors, je reprends un peu mon propos sur les témoins. Je rappelle, le but n'est pas de critiquer les témoins et leur bonne foi et leur bonne volonté, loin de là. C'est juste d'accepter la valeur d'un témoignage. Je reprends un peu la base en méthode scientifique. Sur 100 témoins, il y a des canulars. Ça existe. Il y en a peut-être 20%, peut-être 30%, peu importe le chiffre exact, mais il y a un pourcentage de canulars. Il faut les identifier. Pas de problème. Une fois qu'on nous reste, disons, 70 cas, il y a des gens qui, pour X raisons, ont halluciné. Phénomène psychique, tout un tas de raisons. Je vais raconter, pour l'illustrer, un cas que j'ai vu une fois. Une fois, je me promenais avec mon meilleur ami dans une forêt, c'était la nuit, il faisait très sombre, et tout d'un coup, j'ai vu une forme noire au bout d'un arbre. On sortait d'une séance de spiritisme, il y avait tout le contexte qui va bien. Et on voyait une forme bouger loin derrière un arbre. Alors on s'est arrêté, on a commencé à avoir un petit peu peur, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Puis on a décidé de s'approcher tranquillement. Et là, le truc s'est mis tout d'un coup à bouger, on a sursauté comme pas possible, c'était un sac poubelle qui s'est déclenché du larme. C'était un sac poubelle. Si jamais j'avais fait demi-tour, que j'étais rentré chez moi, j'aurais dit cette nuit-là, j'ai peut-être vu un dogman, parce que j'aurais reconstitué ma mémoire, courbe de l'oubli, réadaptation, voilà, etc.
Tout à fait.
Donc, ça ne veut pas dire que j'aurais menti si j'avais raconté ça, que j'avais dit j'ai vu un dogmat. Ça veut dire que j'aurais réellement construit ma mémoire autour de ce phénomène. Donc, dans ces 70 cas qui restent, il y a des gens qui, pour X raisons, vont reconstituer leur mémoire par rapport à leur référent culturel, etc. Exemple, si quelqu'un m'a dit j'ai vu un dogmat, la première chose que je vais regarder, c'est son historique internet pour voir combien de films de loups-garous il a vu dans l'année qui vient, voire dans les
Tout à
deux
fait.
jours avant. Tu vois, ça réduit, etc., dans le champ des témoins. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont rien vu à la fin. Et à la fin, ceux qui restent, parce qu'il en reste, et tu as raison, quelles sont les traces matérielles? Et les traces matérielles, on va dire, par exemple, oui, il y a eu une empreinte de pas. Moi, je veux voir le moulage. Il y a eu tel, je veux voir la photo, etc. On veut des preuves objectives, parce que la bonne foi d'un témoin, on ne la met pas en cause, mais il y a tellement, tellement, tellement d'éléments qui peuvent dire c'est une illusion, phénomène physique. Il y a tellement, tellement d'éléments qui peuvent dire il y a une raison qu'on n'a juste pas vue ou pas compris qu'on ne peut pas s'y fier à 100%. Donc, quelles sont les preuves? sur le plan d'une matérialité, hein, j'entends, je ne parle pas de la théorie globale. Hein.
Oui, sur le plan de la matérialité. Moi, je pense que le meilleur cas, en plus, c'est un contexte particulier. L'époque à laquelle est arrivé le spiritisme, on était en pleine industrialisation du monde occidental. Et on a eu une espèce de contre-courant qui est venu face à ce scientisme naissant. Hein, et on a eu de nombreuses expériences de démonstration avec médium, de cristallisation d'une réalité invisible dans le visible, avec moulage à l'appui en plâtre, hein. Ça c'est des choses référencées avec des gens officiels qui sont venus constater les faits, et ça existe, ça on peut pas le nier, c'est pas parce que ça date d'il y a un moment, les éléments existent encore, hein. Avec des traces de mains moulées dans le plâtre, avec vraiment une apparition au travers d'une espèce de sécrétion intermédiaire, le périsprit ou éthérique, peu importe comment on peut l'appeler, qui est venue apparaître devant les personnes et se plonger dans du plâtre. Et on a même les traces de rainures de peau sur ces éléments. Et on ne peut pas les nier, ça, tu vois, si on prend vraiment à l'extrême ces éléments-là, ils sont existants. Ils sont existants.
Je vais là-dedans. On ne peut pas le nier, tu as raison. Il y a tout un tas d'éléments référencés qu'on peut même consulter dans certains cas et même observer dans d'autres. On ne peut pas les nier. Mais la question qu'on va forcément poser en face, enfin qu'un scientifique poserait, moi je ne suis pas scientifique, mais me fais leur porte-parole, si je puis dire, sur ce point, la reproductibilité. Pourquoi ce phénomène-là, si tu le mets sans contrôle, avec observation, dans les mêmes contextes tenseurs que tu décris, avec les mêmes individus, pourquoi on ne pourra pas le reproduire?
Pourquoi? Bah, c'est toujours le facteur mental qui vient casser ça. On dit souvent, quand on fait des séances de spiritisme, celui qui va pas y croire, il va casser la séance. Ça, c'est quelque chose qui est connu quand on veut faire.
C'est quelque chose qui est connu, mais qui est faux dans mes expériences à moi. Mais vous n'êtes pas obligé de me
D'accord, t'as
croire.
réussi. Mais t'as
Ah,
réussi
bien sûr, j'ai tout
à
réussi
convaincre.
à faire du
Ok.
spiritisme, même
Moi,
avec les plumes.
j'ai pas vécu ça parce qu'à chaque tous les coups, ça a marché. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu. Moi, à tous les coups, ça a fonctionné aussi. Donc je peux pas nier ce que tu me dis là. Mais il semblerait que, par contre, moi, j'ai eu l'occasion, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir écrit Quallon aussi avec ça, c'est que moi-même je suis expérienceur. C'est-à-dire que des choses j'en ai vu, hein. Une entité au pied de mon lit. J'ai vécu un phénomène de poltergeist dans une maison de vacances. J'ai eu mes deux ovnis, tout ça en 25 ans. Donc, à un moment, je me suis aussi auto-analysé. J'ai eu cette chance d'avoir ma propre auto-analyse des phénomènes en me disant j'étais en capacité de vivre des choses, mais quand je veux les reproduire avec tous les éléments tels que je les ai vécus, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce que le mental, il est là. Et le mental, il te fait poser 36 questions. Il te fait décortiquer les choses. Alors qu'à l'époque, quand j'avais vécu ces choses-là, je m'y attendais pas. J'étais complètement vierge de toute mentalisation de quoi que ce soit. Et j'irais même plus loin. J'étais dans un état émotionnel particulier. Donc, j'ai reproduit l'état dans lequel les témoins étaient. Par exemple, mes deux ovnis en 20 minutes, qu'est-ce que je faisais depuis 3 jours? J'étais sur ce balcon en Corse, je lisais des bouquins sur l'inexpliqué, je prenais des notes, j'étais presque en méditation en fin de compte, j'étais en train de prendre des notes, de faire des schémas que je crée de toutes pièces en fonction des concepts que j'avais cru comprendre. J'étais dans un cheminement libre, entre guillemets, j'étais vraiment. C'était pas. En plus, j'étais en vacances, donc j'avais dire, j'avais pas mon quotidien. J'étais libre. Soit j'allais à la mer, soit je lisais. J'étais complètement décroché de tout, presque dans une forme d'intemporalité. J'allais nager, j'allais lire. J'allais nager, j'allais lire. En plus, j'avais la chance d'être sur un contexte tenseur. C'est-à-dire, j'étais à côté du site, de la cité mariale de Calvi, qui telluriquement parlant est très forte, donc en plus il y avait un contexte tenseur, et j'étais en nouvelle lune, et ça je ne savais pas tout ça. Et j'ai fait face à ces phénomènes parce que j'étais libre de toute pression mentale, et c'est pour ça qu'on ne reproduit pas.
Alors,
Y a les tests américains, tu sais, ils ont testé, la CIA a fait de nombreux tests avec des médiums, et ils se sont rendus compte de tout ça, que plus on va mentaliser, plus on va mettre la pression aux gens, et moins c'est réussi,
mais
notamment quand ils.
c'est pas pour rien que dans les différentes écoles initiatiques, à tendance très très occulte, on utilise des méthodes rituelles pour pallier à ça, au niveau
Mais
du
oui,
mental, justement. Enfin,
on
ça
trompe le mental. Hein.
on va vraiment y revenir, hein. On va
Oui,
vraiment y revenir
mais c'est
à
pour
ça.
tromper le mental, effectivement.
Ah, ça dépend des écoles, je pense. Enfin, on va y revenir de toute façon dans la dernière partie à ces éléments. Là, on va entrer un petit peu dans la deuxième partie parce que tu parlais justement de ton témoignage de Calvi qui a été intéressant. Tu parlais de ces contextes dans lesquels on se trouve parce qu'en fait, si j'ai bien compris dans ta démarche, il y a le contexte tenseur de là où on est au sens géographique, physiquement, les minéraux, etc. Il y a le contexte tenseur qui est le soleil, la lune, les astres, la position que ce astronomique, si l'on peut dire,
Astronomique, oui.
va y avoir la météo, tout un tas d'éléments, et il y a aussi l'élément principal qui est nous, en fait, c'est-à-dire nous. Et toi, j'ai pas pris ton livre de façon chronologique, je le prends par couche, tu décris trois grands profils archétypaux un petit peu des individus qui expliquent en grande partie pourquoi cet élément qui est l'humain voit, ne voit pas, voit beaucoup, pas beaucoup ou jamais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces profils types?
Oui, alors ça c'est né à l'époque quand j'étais vraiment, je découvrais le terrain. J'arrive sur le terrain au GEPI en 2016 à 2018 et je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les années, j'ai les mêmes types de personnes en fait. Soit j'ai des gens qui sont très, comment dire, impressionnables, pour faire simple, des familles très impressionnables, des gens qui sont très vite dans la croyance, qui sont pas forcément. Donc, je me suis rendu compte sur le terrain, effectivement, qu'il y avait des résurgences de témoins qui étaient toujours les mêmes. Donc, cette première catégorie de personnes, pas forcément diplômées, dans une émotion plutôt, enfin voilà, prêt à croire, prêt à, voilà, il y a une forme de, comment dire, en même temps pas dénigrer ces personnes, de candeur. On va dire des personnes plutôt candides par leur statut social, par leurs croyances et leur niveau de diplôme. Et je me dis, ça arrive beaucoup à ces gens-là quand même. Et puis de l'autre côté, j'avais d'autres personnes, alors qui étaient dans une recherche spirituelle. Et du moment où ils avaient initié cette recherche, il y a des choses, d'un coup, ça partait, ça s'accélérait, enfin, contre ces phénomènes, arrivaient sur eux. Et c'était plus souvent, du coup, des gens en recherche spirituelle, et en plus avec une fibre artistique, hein, quand même, qui était assez marquée, ou une sensibilité émotionnelle. Dans les deux cas, il y avait cette sensibilité émotionnelle, mais d'un côté, une recherche pour affiner la compréhension, et de l'autre côté, il vivait un phénomène, juste un phénomène qui était entretenu, qui semblait être entretenu par leur émotion, puisque nous, à chaque fois, on arrivait à calmer les choses, et ces phénomènes de hantise, quand on faisait mentaliser les gens, qu'on leur expliquait les choses en mettant un cadre, hein, eh ben, à ce moment-là, on n'avait pas du tout, on n'avait plus de phénomène. Et c'est là que je me suis dit, oh là, il y a quand même des profils de gens, et puis il y a une manière de faire cesser les phénomènes avec ça. De là, c'est là qu'aujourd'hui j'ai posé, on va dire, c'est délicat, hein, on va dire de candeur, des gens plutôt candides, hein, qui vivent ça comme ça au jour le jour, sans comprendre ce que c'est, avec plutôt, ils mettent des croyances dessus, c'est un fantôme, c'est mon grand-père, c'est voilà. Et puis le phénomène, le profil H3, qui lui est dans une recherche vraiment, une évolution spirituelle, hein, va vivre aussi des phénomènes beaucoup plus lumineux, entre guillemets, beaucoup plus lumineux en plus. Et puis au centre, on a ce dernier profil de gens qui vont rien voir du tout, hein, la plupart du temps, parce qu'ils sont soit trop auto-centrés dans leur mental, dans leur vie, ou pas assez émotionnels. Hein. Et puis, bah, du coup, ils vont se couper de ça, en fait. Ils vont se couper de cette de ce phénomène, de ce phénomène, de ce qu'il y a derrière le Quallon, pour faire simple, hein. Voilà. Il y avait ces trois profils, parce que, non pas par croyance, mais parce qu'au fur et à mesure, par l'expérience, je me suis rendu compte que j'avais ces types de personnes, en fin de compte. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai expliqué, je me souviens que j'étais dans une conférence en physique, et devant moi, je n'avais que des artistes, quasiment. Je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que je suis en train de leur expliquer de quel côté ils se trouvent. Et ils étaient tous dans cette recherche. Voilà. Donc, il y a trois profils et deux profils qui favorisent.
Quelques points sur ces profils, parce que c'est un des points où j'ai été le moins d'accord avec toi,
Dis-moi.
pour plusieurs raisons. Pas sur le fond, mais sur le détail. C'est-à-dire que le profil 1, les gens que tu décris comme un peu candides, c'est aussi les plus influençables. C'est les plus
Oui,
influençables, c'est
on
ceux
peut
qui
les
sont le plus dans une
hypnotiser.
émotion, plus dans une émotion volatile et plus dans une émotion instinctive. Donc, qui sont de ce
Tout à fait.
fait, beaucoup de gens vont être facilement en phénomène de hantise parce que plus sensibles au film d'horreur qu'ils ont regardé, parce que plus
Tout à
sensibles à la
fait.
dernière vidéo de Dogman
Tout à
qu'ils ont
fait.
vue. Donc, il y a quand même aussi ça. Et donc, il y a aussi plus de possibilités, comment dire, de fraude.
Oui,
Involontaire d'ailleurs, c'est même pas des gens qui
oui.
auraient l'idée du canular, c'est des gens qui vont s'auto-illusionner. Et puis on a le cas numéro 2, donc qui sont plutôt les sceptiques, on va les appeler comme ça. La critique qu'on ferait sur ton modèle, c'est de dire bah, c'est des gens qui justement sont pas dans la croyance pure, qui sont dans le doute, qui sont dans l'analyse et la recherche de faits. Et donc ils vont dire bah, ils voient pas parce qu'il n'y a rien à voir.
Et
Et
c'est
puis
le
le cas
gardien du
numéro
seuil, hein.
et le cas numéro 3, c'est l'artiste, mais qui dit artiste dit quelqu'un qui est dans beaucoup d'imagination, beaucoup de création mentale, beaucoup de recherche de vie et d'expérimentation, voire même de substances illégales. Et donc, on pourrait te dire, bah, du coup, ces gens-là, est-ce que c'est fiable aussi, dans une certaine mesure? Et pire que ça, et c'est pour ça vraiment que j'étais pas d'accord tout à fait sur ces trois découpages en trois, du moins, le cas numéro 3 dans ton livre. C'est en gros ceux qui ont le plus de chance. Sur le plan que c'est les gens qui sont, si je parle en langage New Age, qui ont un champ de conscience élevé. Le problème de ce champ de conscience élevé, c'est qu'on ne peut pas le mesurer non plus. Et donc, de ce fait, je trouve que ce découpage, il est trop simpliste, si tu vois l'idée.
J'entends. Après, c'est pas évident de faire amener de la nuance dans ces
Très
phénomènes-là.
compliqué.
Le découpage, effectivement, il était vécu sur le terrain par moi-même, parce que effectivement, les premières enquêtes qu'on a réalisées sur le terrain, c'était ces gens plutôt influençables. D'ailleurs, ils osaient nous appeler, parce que des gens peut-être avec un peu plus de culture, de bagage, puis aussi peut-être, comment dire, le fait d'avoir un métier, peut-être plus public, tout ça, il y a des risques. Donc voilà. Donc on avait au début effectivement plutôt des gens qui étaient dans cette candeur. Mais pour revenir à ces phénomènes, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ces phénomènes sont liés à l'émotion. Donc on va avoir ces profils forcément. Et en plus,
Pourquoi
moi qui
l'émotion
mets
du coup? Pourquoi l'émotion?
Parce que l'émotion est moteur. C'est quand on a une prise d'émotion, des pics d'émotion, qu'on crée un contexte tenseur. Alors, si tu veux que j'aille plus loin, et on crée l'inversion de
Oui.
polarité du cerveau. Et du coup, on va créer une porte par nous-mêmes, par notre stress ou par notre émotion puissante. On va créer l'inversion de polarité. Et en fait, bon, après, je sais pas s'il faut que je déroule comment j'en suis venu à expliquer ce modèle-là. Ouais. Parce que,
Oui, tu peux. Oui.
OK. En occultisme, en tout cas, le livre d'Hermès Thoth nous dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Quand j'ai compris les contextes tenseurs externes, avec l'inversion de polarité des sols, ou l'inversion de polarité dans le ciel en cas d'orage, en cas d'effet faune, qui va créer une porosité, je me suis dit, mais alors ça veut dire qu'il y a quand même des phénomènes qui sont générés par des gens, et ces gens changent d'emplacement, et il y a quand même des phénomènes. Donc c'est bien lié à ces gens-là. Si la loi du Kualon, enfin si les règles du Kualon sont bonnes, ça veut dire que la personne peut être son propre contexte tenseur. Et comme les contextes tenseurs amènent une inversion de polarité, je me suis dit, qu'est-ce qui est électrique? Qu'est-ce qui est électrique dans le corps physique et qui peut amener une inversion de polarité? Quel est le siège? Quel est l'endroit qui est à la fois électrique et siège de la conscience et qui sera en capacité d'inverser la polarité par un mouvement émotionnel? Eh ben, c'est le cerveau, en fin de compte. C'est le cerveau. Et il y a certaines études scientifiques, alors qu'on n'a pas prouvé ça, hein, mais qui ont montré qu'en fonction des émotions, il y a des zones du cerveau qui étaient activées et pas d'autres. C'est là que j'ai émis cette hypothèse, qui reste théorique aujourd'hui, évidemment, purement théorique, mais qui a l'air de coller à un modèle où l'individu créant un état émotionnel particulier, accidentel ou voulu, quand on est occultiste et qu'on veut créer cet état émotionnel, hein, va ouvrir une porte, et cette porte est une inversion de polarité du cerveau qui va ouvrir notre propre Kualon, puisque le Kualon entoure tout ce qui est matière. Le Kualon est partout. Il est aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Donc cette inversion de polarité créée par l'émotion va créer cette porosité du réel vers les plans intérieurs, en fin de compte. Voilà. Après, effectivement, mon découpage est peut-être simpliste.
Si
J'entends.
j'ai bien compris pour la notion que l'émotion est à la base de tout, tu as bien fait de préciser, parce que j'y vois un petit peu plus clair dans ce que tu précises. L'émotion en tant que carburant, oui.
Oui,
mais
tout
en
à
tant que
fait.
carburant, et un carburant n'est pas la voiture. Et
Non,
parce que je reprends un
tout à
peu le
fait.
modèle platonicien, l'âme animale, hein, les besoins primaires, l'âme émotionnelle, les émotions, l'âme logique, logisticon, au-dessus, la logique supplante l'émotion pour Platon, le mental supplante la logique, et ensuite on arrive au monde conceptuel. Mais du coup, une émotion n'est qu'une émotion. Donc, c'est-à-dire une émotion peut être destructrice ou l'amour, la haine, hein, ça approche, hein.
Exactement.
Et donc, si on n'a pas un mental, une volonté au-dessus pour les canaliser, c'est l'arcane du tarot, le chariot, les deux chevaux et le pilote,
À fait.
l'esprit qui dirige.
C'est ce qui
Donc,
était
c'est pour ça
sous
que
ma...
ce que tu as dit me réconforte un petit peu dans la
Oui,
démarche.
oui, oui.
Voilà, on est bien sur du carburant et pas sur une fin en soi.
C'est le carburant, puisqu'après, les phénomènes, ils vont bien s'adapter à quelque chose. Ils vont pas s'adapter à l'émotion, ils vont s'adapter au concept de la personne, donc à son mental, donc à ce qu'il conscientise. Donc effectivement, après, il va modeler tout ça autour de l'individu, ce qui fait qu'il y a une multiplicité des cas de phénomènes surnaturels, parce qu'il y a autant de personnes qui envoient et qui en cogénèrent que de phénomènes eux-mêmes. Mais le carburant, que tu dis très bien, va reprendre ce terme, ce carburant émotionnel semble être celui qui ouvre la porte.
D'accord, oui, je comprends mieux. Ok. Autre point d'intérêt, avant de parler de tous les autres phénomènes tenseurs, donc au-delà de ces trois profils types avec certains plus à même dans ton modèle de voir, deuxième effet qu'on trouve souvent, apparemment, c'est le tellurisme. Alors de là, j'ai plusieurs questions. C'est pas un domaine où je suis très bon. Le tellurisme. Quand je dis c'est pas un domaine où je suis très bon, c'est pas parce que j'ai pas lu de livre sur le sujet et c'est pas parce que j'ai pas été sur les sites faire du tellurisme, c'est parce que j'arrive pas à adhérer j'adhère très bien au tellurisme, hein, j'adhère très bien au tellurisme, mais j'adhère pas au ley line. Je m'explique pourquoi. Quand j'ai lu ton livre, j'ai trouvé intéressant la carte tellurique et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher sur Internet pour retrouver la carte. C'est normal. Et je trouve que le site n'existait plus. Et après, j'ai cherché désespérément pendant un certain temps et j'ai cherché cartographie du réseau Hartmann et tous les systèmes telluriques qui existent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de carte globale. C'est arbitraire de ce que j'ai vu. J'entends par là, attends, je vais te poser la question après. Hein. C'est
J'entends, je
arbitraire,
dis rien.
sous-entendu, en gros, c'est simple, on prend les églises, on relie des églises, on relie des menhirs, on relie des dolmens, ce qu'on va appeler des sites sacrés, et on en déduit qu'il y a une répétition un petit peu de ces lignes. Sauf que personne n'est d'accord. Personne ne produit le même résultat à la fin. Il
Tout
n'y a
à fait.
pas un modèle classique analysé. Si on va dans le pur occultisme avec médium, pendule, etc., sur les lignes, il n'y a pas un modèle uniforme. Donc, toi, tu utilises quel modèle ou comment tu fais pour considérer une logique tellurique,
Ouais,
en gros?
Alors, comment j'en suis arrivé à ça en fin de compte, hein? Alors, il y a du tâtonnement et puis il y a aussi la rencontre avec effectivement ce site qui s'appelait Eurogris, hein, et pendant des années, je n'ai pas pu mettre la main sur cette personne parce que le site a fermé peu de temps après que j'ai fait énormément de captures d'écran. Et le jour où ça a fermé, j'avais eu la chance de faire une capture d'écran à peu près sur les Hauts-de-France, là où j'habite, hein, et j'ai reconstitué la première maille et ensuite j'ai tout retracé par rapport à ce que j'ai cru comprendre de ce modèle géométrique. Par pure géométrie, hein. J'ai retracé à la règle tout à la main. Ce n'est que il y a 3-4 ans en arrière que un contact Facebook a retrouvé la personne qui s'appelle Rémi. Et ce monsieur, du coup, j'ai refait avec lui une petite formation pour comprendre comment il en était arrivé là. Et ce qui était rigolo, c'est que moi qui avais du coup fait maturer cette géométrie tout seul dans mon coin, lorsque je suis revenu vers lui et que j'ai expliquez-moi ce que j'avais remarqué. Il m'a dit oui, moi aussi. Je suis d'accord avec toi. Tu as compris. En parallèle, en fait, nos chemins avaient divergé puisque j'avais pris le début de son modèle. Après, j'ai fait ça dans mon coin. Lui, de son côté, bah, ça, je lui ai demandé, mais ça vous sort d'où? Parce qu'il y a une tradition derrière. Vous avez été initié par quelqu'un. Expliquez-moi, parce que moi, du coup, je vois que ça fonctionne. Mais dites-moi comment vous avez fait. Donc moi j'étais dans le même questionnement que toi. Lui il m'a dit mais c'est purement intuitif. Il dit je me suis rendu compte que sur mon territoire local il y avait un alignement. J'ai commencé à tracer un trait et puis au fur et à mesure Il y a un schéma géométrique, parce que lui est professeur des écoles, il aimait beaucoup la géométrie, il a trouvé le cheminement géométrique, la logique, en fait, la maille initiale, il l'a comprise, et il a reporté cette maille, et il a commencé à regarder ce qui se passait autour de cette maille. Voilà.
Et
Après, si
comment,
tu veux en savoir plus, je
en
pourrais t'orienter
acceptant.
vers lui.
Non, c'est là pour vraiment que tu nous expliques par rapport à ton cas de
Ouais.
travail. Mais en gros, on a cette maille qui est faite, donc ce champ tellurique, enfin ce réseau de quadrillage, peut-on dire. Comment on peut vérifier que ce quadrillage est objectif sur le terrain? Attends, à la fin de la question. Comment on
Oui,
peut
oui.
vérifier qu'il est objectif sur le terrain sans faire un système à l'inverse? C'est-à-dire que, en gros, je regarde ces lignes et je vois des cas concrets de manifestations, d'Augmann ou autres, sur ces lignes. La question qu'on doit se poser toujours, c'est est-ce que j'ai posé les lignes d'abord ou est-ce que j'ai référencé tous les cas d'abord?
Moi, j'ai pas,
Parce
j'ai
que
travaillé avec ça. Non, non, non.
si jamais on
J'aurais pas
a.
validé, sinon. Hein.
C'est ça, que
Ah,
tu
j'aurais
vois la
pas
question que
validé.
je vais te poser,
Non,
c'est
non,
le
j'aurais
gros
pas validé.
problème du taylorisme,
Oui.
c'est ça.
D'accord. Alors, du coup, moi, quand j'ai vu ce modèle, il m'a interpellé. Forcément, j'étais radiesthésiste dans l'âme, puis bon, je suis curieux de nature. Là, on m'explique un modèle qui sur lequel seraient centralisés des lieux sacrés, tout ça. Donc, quand j'avais pris cette maille, j'avais retracé moi-même, du coup, en partant de la maille matricielle de base que j'avais pu capter avant que le site disparaisse, je prends les trois premiers points et à l'intérieur, je commence à sous-tracer localement sur le territoire que moi je connais, c'est-à-dire vraiment la Picardie, l'Oise en particulier, avec des sites locaux qui sont ultra pas connus du tout. Je veux dire, il y a des mégalithes partout, des petits mégalithes, des roches au feu, la pierre qui tourne, des trucs qui sont référencés uniquement sur les cartes IGN ou sur des panneaux de communes parce qu'ils savent que voilà, c'est là. Moi, j'ai tracé sa logique. J'ai d'abord regardé localement. Je me dis, c'est marrant, ça suit toutes les chaussées de Brunehaut, c'est-à-dire toutes les voies gauloises, anciennes gauloises, qui sont romaines à présent. Je traçais mon crayon était dessus. Je dis, mais c'est fou, je trace et je retrouve les routes romaines, les voies romaines. Je dis, tiens, c'est marrant. Donc je vérifie les mégalithes. J'ai purée, ça trace aussi. Alors, j'ai descendu jusqu'à 5 niveaux. C'est-à-dire que tu peux retracer, tu reprends toujours le centre de ta forme géométrique et tu reprends ces points-là pour retracer de plus en plus en zoomant. J'ai fait 5 niveaux. Si je suis parti de la maille primaire de cette personne et j'ai descendu 5 niveaux. Je me suis arrêté au 5e niveau. Après, au-delà, j'ai essayé pour me rendre compte que c'était pas cohérent. Il n'y avait plus de cohérence. Donc je me dis, je reste sur ces 5 niveaux. Et je suis resté sur l'Oise uniquement. Et j'ai retrouvé toutes ces pierres. Et je me dis, c'est marrant parce que j'ai aussi retrouvé toutes les cathédrales picardes, c'est-à-dire Beauvais, Noyon. Puis après, je suis remonté plus sur le département d'à côté, Soissons, Amiens. Et Amiens, j'ai tracé, mais c'était un carrefour. C'est-à-dire que sur la cathédrale d'Amiens, j'avais 6 lignes qui venaient se mettre là. Je me dis, mais c'est dingue. Je dis, mais c'est hallucinant. Je suis corrélé sur les voies romaines. Je suis corrélé sur les mégalithes. Je suis corrélé sur, quand j'ai établi plus généralement sur tous les Hauts-de-France, je suis corrélé sur toutes les cathédrales gothiques. J'ai pas cherché à mettre les points dessus. J'ai tracé, après, je regardais ce que je trouvais. Et je me dis, mais oh, c'est hallucinant, limite, les grandes zones de croisement de ces lignes, c'est les cathédrales gothiques. Et c'est ça qui m'a interpellé. Et après, une fois que les temples gaulois, chtoniens et tout ça, hein, tous ils y étaient, hein, tous. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et là, je me suis dit, bon, ok, tiens, je vais regarder tous nos cas d'enquête, les 30 enquêtes qu'on a fait de terrain, ils sont où dessus? Purée, ils étaient dessus aussi. Je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. Et ça venait aussi répondre à une question que j'avais à
Juste une
l'époque.
petite pause, juste une petite pause. Donc là, je comprends parfaitement pour le maillage tellurique cathédrale, si les points de référence sont dessus, pas de souci.
J'ai
Maintenant,
pas fait
là, juste
l'inverse,
sur la
j'ai
suite.
travaillé comme ça.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais savoir. La question suivante que tu vas aborder, Alain, que tu vas aborder juste dans quelques instants, tu as pris les cas, les 30 cas que tu as eus, et tu les as posés sur ta carte, en gros, pour voir où c'était. Et la question que je vais te poser, c'est la ligne tellurique a fait combien de centimètres, de mètres ou de centaines de mètres d'écart?
C'est tout le problème. Aujourd'hui, c'est le travail que je suis en train de référencer sur le terrain parce que il est évident qu'aujourd'hui, le travail autour du Quallon va redevenir un travail de terrain après la promotion du livre. Donc, c'est un questionnement que je me pose. C'est un questionnement que je me pose. Et donc, j'ai pas la réponse précise. Il semblerait que les mailles principales, la zone d'influence d'influence soit de l'ordre de 800 mètres à peu près. De ce que j'ai cru en comprendre, mais par tâtonnement, parce que je vois qu'il y a des sites qui sont localisés sur une grande ley line majeure et j'ai des écartements qui correspondent à peu près à ça. Donc j'imagine que, mais je n'ai pas de vérité absolue. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche de tâtonnement, hein. C'est du tâtonnement, c'est pas de la vérité sûre, nette et précise. Je tâtonne, mais le fait est que dès que je me questionne et que je prends ma carte et que je regarde où un site qui me questionne est placé, ça marche. C'est ça aujourd'hui qui est intéressant. Et je vais plus loin. Rémi, ce fameux monsieur dont le mérite revient d'avoir trouvé ça par intuition, hein. Moi j'étais déçu quand il m'a dit ouais, c'est de l'intuition, hein. Je me suis dit, merde, je pensais qu'il allait me dire je suis issu d'une loge de Mitra qui a perduré dans le temps et l'espace, tu vois. Mais pas du tout, pas du tout. Il est très pragmatique. Il me dit non, non, mais il dit j'ai eu cette intuition parce qu'il y a des petits mégalithes de mon secteur local dont j'ai remarqué des alignements. D'ailleurs, il m'a dit, j'avais un ami archéologue qui m'a dit oui, nous on a remarqué des alignements. Quand on fouille des trucs, on se dit c'est marrant, c'est aligné les 4-5 sites, ils sont alignés sur une même ligne. Les archéologues le voient, hein, mais
Bien
ils
sûr.
peuvent remonter. Ils remarquent des alignements. Donc, ce qui a été fou, et je pense que ça, Rémi, il n'avait pas trouvé. Et c'est ça qui est venu pour moi vérifier ce qu'il a dit, c'est qu'à un moment, il y a des grandes lignes nord-sud, des grandes lignes qui sont jalonnées à distance régulière, d'accord, avec un certain nombre de kilométrages. C'est les grandes lignes principales. Donc, il y a la ligne de Saint-Michel, et puis il y a la ligne qui passe sur Paris, d'ailleurs, qui passe sur la cathédrale d'Amiens. J'ai calculé la distance entre ces deux lignes-là. Donc, je savais que c'était ce qu'on appelle les grandes ley lines. Enfin, moi, j'appelle ça les grandes ley lines. Personne. Moi, j'ai vu ça nulle part, hein, ailleurs. Je calcule cette distance. À la même latitude, je calcule donc la circonférence de la Terre à une même latitude. Et je divise par l'espacement entre ces deux grandes ley lines. Et là, je tombe sur un chiffre. 100. 100. C'est hallucinant, 100. Je tombe sur 100 ley lines. Il y aurait 100 grandes ley lines majeures, on va dire les artères de la planète, sur laquelle circule cette énergie. J'aime pas le terme d'énergie parce que ça fait rapport à la science physique. L'information, on va dire, circule l'information. Et quand je regarde ce qu'il y a sur ces grandes ley lines, je retrouve tous les grands monts sacrés. Je retrouve le Kilimandjaro, je retrouve le mont Butchegi, je retrouve le mont Bugara, je retrouve le mont Saint-Michel, je retrouve le lac Titicaca, qui est le lac d'altitude par référence. Je retrouve donc des grands monts qui sont les légendes nationales presque.
Et la question qu'on va te poser naturellement, y a-t-il des grands monts qui ne sont pas dessus? Des grands monts sacrés?
Alors, il faudrait que tu me redonnes, toi, si tu as un autre listing,
Je ne
j'en
sais
ai
pas,
oublié plein. Hein.
c'est que je n'ai pas
J'ai
la
mis dans la
carte, donc
calèche sur le chemin, hein. J'en ai mis sur la calèche sur le chemin. J'ai référencé tous les grands sites internationaux, vraiment, et qui plus est sur les monts sacrés. Je me souviens notamment du Kilimandjaro, où je trouve un chiffre net, sans virgule, enfin, dans mes écarts. Je dis, c'est hallucinant, hallucinant.
En gros, combien d'écart entre les lignes
Ah, il
majeures?
faudrait que je te les redonnerai, je l'ai plus en tête, c'est dans la calèche.
Grosso modo, hein,
Enfin, je sais plus. Non, je veux pas te dire une bêtise,
c'est
c'est
pas
dans la
grave.
calèche sur le
Voilà.
chemin. C'est dans la calèche sur le
Je te
chemin.
pose la question parce que j'étais au Japon il y a 3 jours et il y a par exemple plusieurs montagnes sacrées au Japon,
Oui.
notamment une, c'est le mont Koya, siège du Shuendo.
J'en ai
Pas du
trouvé un,
Shuendo.
hein, au Japon.
Oui, mais c'est qu'il y en a plusieurs. C'est qu'il y a le mont Koya qui est sacré, il y a le mont
Ouais.
Kurama, le mont Kumano, le mont Fuji, bien évidemment. Et c'est que si on s'amuse sur les lignes, ils vont pas être sur la même, à mon avis. C'est pour ça que je te
Non.
demande ça, en fait.
Oui,
Parce que du
oui. Donc,
coup, suivant les placements,
bien sûr. Alors,
c'est
moi,
un
ce que j'ai.
exemple par l'illustration.
Bien sûr.
C'est que je ne doute pas un instant que les sites sacrés soient sur les lignes, mais je pense aux sites sacrés qui sont pas dessus.
Oui. Bah, après, moi, ce que je remarque quand je regarde localement, par exemple, sur les Hauts-de-France ou sur la France plus généralement, on a des sites qui sont vraiment placés. Par exemple, la cathédrale d'Amiens, elle, c'est incroyable. C'est la mieux placée de toutes les cathédrales gothiques. La meilleure, la mieux placée. La cathédrale de Paris, limite, il y a juste deux ley lines qui passent dessus, c'est tout. Mais la cathédrale d'Amiens, il y a les six. C'est tous les croisements géométriques, ils arrivent sur Amiens et sans vouloir jamais, sans jamais avoir voulu placer ça sur les cathédrales gothiques, si tu veux.
Bien
Jamais.
entendu.
Je ne me serais pas permis. Je travaille intellectuellement, enfin proprement, même si je flirte toujours avec les limites de ce qu'on peut intégrer comme étant scientifiquement acceptable. Hein, j'entends bien, hein, parce que
Non,
on
c'est pas de la
porte.
critique tout ça, c'est vraiment pour essayer de
Non, non, non,
comprendre une
j'entends.
méthodologie, c'est
Mais tu as
vraiment pour
raison.
comprendre une méthodologie parce
Alors,
que sinon
le
on ne se donne pas
calcul,
de
tu l'as
limite,
dans
on est
ma
obligé de
petite
mettre des
chaîne.
cadres.
Oui. Le calcul, tu l'as sur la démonstration de ma toute petite chaîne YouTube Bragibélovac, le titre, c'est le secret de l'archange Saint-Michel. Va la voir.
D'accord, ok.
Allez la voir. Et j'explique toute la démarche, comment j'ai trouvé ces 100 ley lines. J'en fais la démonstration. Après, dans la calèche sur le chemin, j'explique, j'ai été chercher, ben, j'ai fait le tour de la planète. Après, j'ai peut-être loupé des trucs, mais tous les sites sur des ley lines, en tout cas ceux que j'ai vérifiés, qui avaient, sur lesquels on avait des sorties d'ovnis, en fait, le lac Titicaca, le mont Bugarach, le mont Butchegi, c'était des trucs qui revenaient en ufologie. On disait il y a des bases extraterrestres parce qu'il y a des ovnis qui sortent de la montagne. Donc dès que j'entendais ça, j'allais vérifier, en fait. C'est comme ça que j'ai travaillé. Dès que j'avais des sites où on disait il y a de manière récurrente des phénomènes très puissants, ça marchait. Je pense aussi au Mont Saint-Hilaire au Québec, qui est un site réputé, sacré au Québec, et sur lesquels sortiraient des trucs aussi. Et tous ces monts sur lesquels on dépeint une forme de sacralité et de sortie d'OVNI, où des gens disent oui, il y a des bases extraterrestres, donc ça c'est le taux les boulons qui revient, ça marchait. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs, et que je lui ai dit, il faut absolument que je fasse une petite vidéo comme ça, parce qu'elle est tellement incroyable. C'est tellement fou la manière dont ça m'est tombé dessus, et comment je suis parti de la Pierre aux Fées qui se trouve dans un petit patelin de l'Oise jusqu'au lac Titicaca, en fait. Je me suis dit, c'est quand même, j'ai fait du chemin quand même pour étudier ce réseau. Et tomber sur 100 ley lines précisément, c'est quand même hallucinant. Voilà.
Alors,
Donc, bref, je te laisse rebondir.
élément suivant, alors là on va aller dans un terrain qui est pas du tout mon domaine. Alors je le confesse pour le public, vous excuserez ma faible maîtrise des sujets. C'est sur une partie plus scientifique, à mon sens, qui est sur les phénomènes tenseurs électriques, noganthropiques, toutes ces choses-là. Il y a une première chose, comme je dis, je maîtrise pas le sujet, mais j'utilise le chat pour voir un peu ce que les gens disent parfois. Et il y a une première personne qui a réagi sur un truc que tu as dit, qui est sur les tachyons. Tout à l'heure, tu as parlé des tachyons, et la personne faisait remarquer que les tachyons sont une particule hypothétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une preuve, les tachyons.
Non,
Alors du
tout à fait.
coup, la question que la personne se posera, et que je vais poser en son nom, c'est du coup, les travaux scientifiques et la démonstration que tu fais dans ton livre sur les phénomènes tenseurs électriques et autres, peux-tu les appuyer sans utiliser, par exemple, le tachyon est une hypothèse. Si c'est une hypothèse, ce n'est pas un fait.
Alors, comment partir bien proprement? Je t'avais donné l'exemple de ma vérification sur ma théorie, et ça à l'époque quand j'avais écrit Bigfoot Dogman, j'étais parti sur cette théorie d'électrolyse des sols. Et elle était restée très théorique. Je m'étais dit, il doit exister des contextes. Pour moi, à l'époque, il n'y avait qu'un contexte tenseur, c'est-à-dire l'électrolyse des sols en milieu pollué, ou alors les pots au sol, acidification naturelle par les conifères qui, par les aiguilles de litière, la litière acide qui arrive sur le sol, et la pluie qui vient lessiver cette acidité, crée un sol très spécifique, notamment riche en cristal de roche, qui est un matériau piézoélectrique. Et j'avais à l'époque dit, oh ben ça doit être ça, mais j'avais pas été voir. Et ça, je l'ai regretté. J'ai dit, j'étais trop vite. J'étais tellement content d'avoir trouvé le truc. Donc dans quoi long, je me suis dit non, maintenant je vais aller sur le terrain et je vais aller vérifier cette notion. Est-ce qu'il y a présence d'électricité dans le sol et en plus une inversion de polarité? Et oui. Là, je veux dire, je ne peux pas faire plus scientifique dans ma démarche que d'avoir vérifié, reproduit plusieurs fois l'inversion de polarité du sol avec l'ajout d'un acide sur un sol particulier, notamment pozzolique ou argileux type hydromorphe, c'est-à-dire un sol qui est régulièrement humidifié, enfin même noyé par l'eau. Là, on a vraiment une vérification de terrain et pas une spéculation sur la présence de courant dans le sol. Voilà. Et qui, dans
Je
ma
te crois
théorie,
sur parole,
a
parce
mené
qu'encore une
à
fois,
cette.
aucune compétence dans le domaine. Donc je ne peux qu'écouter sans pouvoir porter un quelconque jugement sur tout ceci. Je le précise et le confesse au cas où.
Et j'ai plus en plus, donc je te remercie. Et qui plus est, je n'ai fait la démarche que d'aller voir ça que parce que à Calvi, ce 20 juillet 2023, m'est apparu deux ovnis en moins de 20 minutes, entre 22h20 et 22h40, en plein orage sec, avec donc un contexte aérien très particulier. On était sous dôme de chaleur. C'est d'ailleurs le record de chaleur de nuit en Corse. Toute période confondue, j'étais sur cette nuit de record et m'apparaît ce truc-là à ce moment-là. Sachant que j'avais mis dans Bigfoot Dogman une théorie sur l'électrolyse des sols et l'eau, la présence de l'eau, de l'humidité, pour expliquer tous les phénomènes, enfin les phénomènes de Dogman et de Bigfoot. Et je pensais que tout ça était lié de la même manière. Sauf qu'on me faisait la démonstration, en tout cas je l'ai perçu comme ça, une espèce de démonstration où on me dit non mais regarde, dans un contexte sec, aérien, on fait pareil. Et c'est pour ça que j'ai voulu réécrire en me disant, mais attends, en fait, ça veut dire qu'il y a un contexte tenseur, il n'y en a pas qu'un. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplicité de phénomènes, parce qu'il y a autant de potentiellement de contextes tenseurs régionalement et de manière diverse, en fin de compte. Sur des sols humides, on peut avoir l'électrolyse. Sur des zones plutôt chaudes, désertiques, on peut avoir un effet dôme de chaleur. D'ailleurs, ce qui explique ce que moi j'ai vécu en Corse, de manière sporadique. Ponctuel, pardon, dans le désert du Nevada, là où on dit qu'il y a énormément, soi-disant, d'ovnis et d'essais de base et tout ça, où il y a les lumières de Phénix, il y a tous ces phénomènes, il n'y a pas de présence d'eau. Mais par contre, quand on regarde la météo type de ces déserts, hein, on a des périodes régulières chaque année de dômes de chaleur. Et quand je vérifie ces phénomènes du Nevada à ces dates-là, on est en pleine période de dôme de chaleur aussi. Si tu veux, à chaque fois que je tirais la ficelle des contextes tenseurs, ça fonctionne. Le triangle des Bermudes, quand je tape description du triangle des Bermudes sur le plan scientifique, on me dit qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on nous explique qu'il y a un courant marin qui tourne autour de la zone des Bermudes. Qu'à l'intérieur de la zone du triangle des Bermudes, l'eau est plus salée, alors que les courants qui tournent en rotation inversée, en rotation, créent un circuit rotatoire, en fin de compte, permanent. Quand on sait ce que c'est que l'électricité osmotique, c'est cette différence, effectivement, de salinité entre deux eaux, hein, qui crée un courant électrique, ben là, dans le triangle des Bermudes, il est permanent. Il est permanent, ce courant, en fin de compte. Dans les lacs du Loch Ness, on nous parle de monstres dans des grands lacs de profondeur, hein, ou même on nous parle de phénomènes ovnis sur les grands barrages hydroélectriques. On nous dit qu'il y a des trucs qui sortent. Moi, je tilte, je me dis, mais alors quel pourrait être le contexte tenseur? Je creuse et on nous explique que ces épaisseurs d'eau-là, quand elles se réchauffent, elles créent des gradients thermiques. Et il y a des zones de tension entre la zone très froide à 4 degrés au fond. Et la zone qui se réchauffe au-dessus. Et ça crée un vortex de tension. Et typiquement, la définition de ces lacs qui créent ces gradients thermiques, c'est essentiellement les grands lacs de profondeur que sont le lac Titicaca, le Loch Ness et tous les lacs écossais. Ou alors, j'ai été vérifié aussi, toutes ces légendes irlandaises autour de monstres, de créatures, les profondeurs sont très, très importantes. Ce sont des lacs de profondeur qui fonctionnent par gradient thermique. En fait, dès que je tirais le voile des contextes tenseurs, en fin de compte, je trouvais bien cette tension électrique, en fin de compte, soit par dôme de chaleur dans les déserts, soit dans les lacs de profondeur par gradient thermique, et dans des bonnes dates, qui correspondent la plupart du temps aux dates de ces phénomènes inexpliqués d'apparition.
Si je suis la logique, encore une fois, malgré mes compétences scientifiques relativement modestes, si je suis la logique, une fois qu'on a identifié ces concepts tenseurs, si je l'identifie, je peux me rendre sur le site à la bonne date et au bon jour, et donc la possibilité de voir un phénomène va être décuplée par
Elle est plus
X,
forte,
X.
elle est nettement plus forte, évidemment.
Donc
C'est tout
si.
l'objet de mon travail à partir du mois de septembre, hein.
D'accord, voilà, ce qu'on va parler un petit peu tout à l'heure sur la suite de ton projet. Donc du coup, est-ce que tu peux, pour aider par exemple des personnes qui voudraient s'intéresser à cette théorie en découvrant tes travaux et qui voudraient possiblement voir un phénomène, est-ce que tu pourrais résumer en quelques points, les points clés du phénomène, hein, sur la grille, la fiche du phénomène, avec les éléments, pour qu'on y voit clair.
Oui, en expliquant bien avant de faire ça, que je me suis aussi intéressé et j'ai voulu les remettre aux travaux de Lionel Camus, un youtubeur qui s'occupe des disparitions inexpliquées. Et quand j'ai corrélé les disparitions les plus mystérieuses, les plus inexpliquées, elles rentraient dans des cadres tenseurs, notamment de syzygie. C'est-à-dire d'alignement de pleine lune ou nouvelle lune. C'est-à-dire que j'ai fait un nuage de points, comme des statistiques en fin de compte. J'ai mis ces points dans un schéma avec les jours du mois et j'ai positionné et j'ai vu des nuages de points se positionner autour des pleines lunes et autour des nouvelles lunes. Donc,
Dans les
on parle
contextes
de
tenseurs,
disparition.
tu utilises la Lune, le Soleil. Est-ce que tu
Lune,
utilises
soleil, lune,
aussi
soleil, terre.
Lune, Soleil, Terre, les autres
Avec un.
astres visibles,
Ah ben.
c'est-à-dire Saturne, Mercure, etc.?
Ah ben si t'as un super alignement, là il faudrait aller vérifier ce qui s'est passé à ces dates-là de super alignement pour voir s'il y a eu des trucs
Non,
référencés.
c'était juste une question de savoir si
Ouais,
tu les
ouais.
utilisais
Oui,
dans
il
ton
rentre en
calcul.
compte tous les alignements du système solaire.
Est-ce que tu utilises aussi le zodiaque?
Non. Je
Non.
reste uniquement sur l'effet gravitationnel. Uniquement sur
D'accord,
l'effet
ok.
gravitationnel. Uniquement. Voilà, du coup, oui. Et
Est-ce
donc,
que, excuse-moi, parce que du coup j'ai une question qui me vient, mais ça m'est venu comme ça, avant de te laisser poursuivre sur les autres phénomènes. Est-ce que tu fais un lien, est-ce que tu as retrouvé que ta théorie recoupait un petit peu les tables de correspondance qu'on va trouver dans les anciens grimoires, ou, etc.
Alors, que tu
Les
parlerais
tables
de
de
quoi dans le
correspondance,
tableau?
c'est-à-dire l'association entre des couleurs, des métaux, des lieux avec des planètes,
Ah,
des astres,
alors
etc.
moi j'ai remarqué un truc assez fou, mais c'est un cas, c'est très personnel, ça m'est très personnel, hein. J'ai remarqué que ma chaîne en argent, lorsque j'étais sur des pleines lunes ou des nouvelles lunes, je ne pouvais pas dormir avec. Je ne trouvais pas le sommeil. C'est assez bizarre parce que l'argent est lié à la lune. Donc voilà, j'en ai fait. Voilà, c'est le seul truc où je peux dire que j'ai un petit peu touché du bout du doigt une correspondance entre un métal
D'accord.
et une planète. Et du coup, par contre, dans les faits concrets, j'enlève ma chaîne. Quand je sais qu'on est en pleine lune, j'enlève ma chaîne en argent. Ouais, sinon je dors pas. J'ai remarqué qu'à une époque, j'étais ultra sensible. Je comprenais pas pourquoi. En cas de super lune, j'allais vomir dans les toilettes la nuit. Hein. J'avais la tête qui tournait. Je marchais à quatre pattes pour me rendre aux toilettes. Du moment où j'ai enlevé ma chaîne en argent, ça s'est arrêté. Voilà. Bon après,
Je
c'est
vous assure que
chaque fois.
je ne regarde pas tous les jours quand c'est la pleine lune. Par contre, quand je sais
Quand
toujours quand
c'est
c'est la
la
pleine
pleine
lune
lune, on
grâce
le
à mon
sait.
chat.
Voilà.
Grâce à mon chat, je
Ah,
le
mais
sais tout de
d'accord.
suite, quoi. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc,
Eh ben
non,
voilà.
non, l'influence des astres, on ne peut pas la
Oui,
nier, ça
c'est
c'est
énorme.
certain.
Non, non, puis. Oui,
Les
donc.
autres phénomènes, du coup, parce que autant les astres, lune, soleil, je trouve ça assez évident, parce qu'on est quand même sur une grosse boule de matière qui sont à
Ah ben on
proximité de
tire,
nous, comme
ça
tu l'as
tire
dit,
l'eau, hein.
la gravité et tout, voilà, il suffit de prendre en considération les marées, la lune, tout ce qu'on veut, pour comprendre tout à fait la logique du phénomène. Mais les autres éléments sur plus subtils, un petit peu dans le sol, les minéraux, forêts, la présence de l'eau, etc. C'est quand même pas mal de choses que tu références. Je vais prendre un exemple pour te laisser aller plus loin. Je suis pas mal intéressé au phénomène des feux follets. Ça me passionne, le folklore. Et les feux follets, on va pas se mentir, l'élément base des feux follets, c'est la présence d'eau, de marécages, pas n'importe quel cimetière, il y a toujours un contexte très très particulier pour l'apparition des feux follets et toute l'explication scientifique qui va bien derrière avec
Bien
aussi.
sûr, oui, une explication purement
C'est
scientifique, hein, bien
ça.
sûr.
Donc tout ça pour dire que c'est quoi les éléments, la cartographie un petit
Bon,
peu des phénomènes.
comment ça se structure? Comment
Ouais.
l'équilibre va naître en fin de compte? Alors, aujourd'hui, moi, j'en suis encore au balbutiement du quoi long, hein, c'est-à-dire que j'ai référencé les choses. Ça demande à aller sur le terrain encore pour comprendre les choses beaucoup mieux. Donc, ta question de base, c'était comment si on met tout ensemble, comment on peut être sûr de statistiquement d'être dans le
C'est
bon
ça.
milieu et de voir les choses. Bon, déjà, effectivement, l'aspect lunaire me paraît évident. Il est évident que le contexte syzygique hein, est important, donc il y a un aspect temporel à valider. Il y a un aspect temporel à choisir. D'accord?
La lune, plutôt
Ça,
pleine
c'est.
lune, plutôt nouvelle lune.
Alors, les deux, parce que tous les phénomènes que j'ai référencés et sur lesquels il y avait la syzygie, les deux syzygies fonctionnaient. C'est-à-dire que mon cas de Calvi à moi, il était en fin de nouvelle lune. Voilà. En plus, il y a une notion de J-3, J plus 3.
Oui,
D'accord?
jusque
Il y a
J.
la journée J, il y a le J moins 3, J plus 3. Donc, il y a ce créneau-là à prendre en compte, évidemment. Et puis ensuite, donc ça pour moi c'est très important. Ensuite, on a le contexte tenseur local, c'est-à-dire que la présence. Alors, moi j'allais parler de mes lignes, forcément mes lines, parce que moi c'est comme ça que je travaille, hein, je vais sur ces lines, mais il suffit d'aller chercher un bon site mégalithique ou un bon site de terme romain ou d'anciens temples gaulois, à tous les coups on gagne. Hein. Plus c'est vieux, plus les sites sont vieux, mieux ils sont placés. Donc les mégalithes, c'est ce qui fait vraiment référence. J'ai remarqué que plus c'était ancien, mieux c'est sur les lignes. Plus c'est nouveau, en fin de compte, plus on revient sur l'époque contemporaine, moins bien c'est placé. Mais en tout cas, un choix d'un site historique, ou d'une forêt, ou d'un site réputé comme étant déjà, source de phénomènes, me paraît évident à choisir. Et puis après, et c'est là le plus dur. C'est là le plus dur. Alors, il y a un truc volontairement que je garde pour moi parce que je vais aller sur le terrain à partir de septembre. Ça, je le garde. Mais évidemment, il y a quelque chose, et c'est le gardien du seuil. Hein. C'est le gardien du seuil, c'est l'état d'esprit de la personne, évidemment. Et c'est la clé. C'est la clé. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le reproduire, évidemment. On arrive très difficilement à le reproduire. On le produit, comment dire, spontanément parce que, soit parce qu'on a cette psychologie non mentale, beaucoup plus dans le ressenti, dans l'émotion, ou alors parce que l'occultiste a travaillé et qu'il a des petites méthodes pour pouvoir se mettre en condition, évidemment, et d'utiliser, comme tu le dis, le carburant de l'émotion pour appuyer. Ce qu'il souhaite faire, appuyer son objectif, sa volonté, hein. Je pense que quand on parle de volonté, tu comprends bien sa volonté. Et voilà, et là, ça peut fonctionner. On a quelques cas de personnes qui réussissent ça. Alors, c'est plutôt des mystiques, justement, hein. Je pense au Padre Pio, notamment, mais il y a tout un tas de religieux qui ont été canonisés ou qui ont été de véritables saints dans leur vie. Même des modernes et des anciens, qui eux étaient des contextes tenseurs à eux tout seuls, où ils guérissaient, ils faisaient apparaître des objets, ils faisaient apparaître tout un tas de choses. C'est référencé dans j'ai lu deux, trois trucs, c'est quand même sacrément référencé ce qu'ils arrivaient à faire. Donc, il y a quand même l'état d'esprit de la personne. Donc, si on a l'état d'esprit, donc la conscience de la personne, avec cet aspect mental canalisé par l'émotion, pour faire très simple, l'aspect temporel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller n'importe quand, mais il suffit de reprendre les fêtes païennes qui ont été ensuite retransformées par la religion catholique, mais les feux de la Saint-Jean, Noël, toutes ces fêtes-là étaient là au début pour fêter des dates très spécifiques sur un cadran temporel lié à la Terre. Et puis, on a des lieux tenseurs. Par la présence à la fois de contexte tenseur et des ley lines. Les ley lines ont l'air d'avoir leur importance. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais remarqué quand j'étais au tout début de mes enquêtes de terrain sur le GEPI, je m'étais dit à un moment, au bout d'un an, j'avais dit à mon camarade, écoute, Patrice, il y a quand même un problème parce que tous les cas d'OVNI, tous nos cas d'OVNI se retrouvent autour d'Amiens. Et plus on s'approche d'Amiens et plus les cas sont présents. Et ça, à l'époque, j'avais pas de réponse. Je me dis, mais on le voit, parce que au fur et à mesure, on avançait, on avait des cas terrains, et je me dis, mais écoute, il y a quand même quelque chose autour d'Amiens. Et quand j'ai tracé mes ley lines et que j'ai vu les resserrements des lignes qui commençaient à toutes converger vers Amiens, je me suis dit, mais oui. Et en replaçant les cas dessus, mais c'était un couloir, littéralement un couloir vers la cathédrale, et les phénomènes venaient rejoindre. La cathédrale, c'était comme un carrefour énergétique, entre guillemets, j'aime pas la notion d'énergie, un carrefour informationnel. C'était dingue. C'est pour ça que à un moment, ça m'a convaincu, parce que dès qu'on prend ça, je prenais cette carte comme un outil, mais un outil hypothétique, mais qu'à chaque fois je vérifiais et que je trouvais des informations de ces 100 grandes méridiennes qui font le tour de la planète, les grands centres mondiaux, tout. Du local jusqu'au mondial, j'arrivais à obtenir une cohérence. Voilà. Donc, il y a aussi la présence de ley lines. Mais pour ceux qui n'ont pas fait la démarche de le faire, parce que dans mon livre, La calèche sur le chemin, j'ai les cartes. Les gens peuvent se repérer, vérifier l'échelle et commencer à tracer. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, il faut faire juste le boulot. Hein. Prendre un site historique de valeur, c'est-à-dire la présence. Moi, j'ai un site, par exemple, où je vais aller à Compiègne pour travailler sur le secteur de Compiègne. C'est un site qui cumule une chaussée de Brunehaut, c'est-à-dire une ancienne voie gauloise qui a été agrandie par les Romains. Un temple gaulois transformé en temple de Mithra et en temple d'Apollon. Avant, c'était Bélénos qui était dessus. Donc un solaire, un dieu solaire, hein, on est d'accord? J'avais d'ailleurs, je vous invite à écouter ton excellente émission sur Mithra, j'avais adoré. oui. Un therme, c'est-à-dire guérison par l'eau. Et un amphithéâtre sur lequel en plus on venait, l'amphithéâtre, on ne faisait pas que des pièces de théâtre, on venait parler religion. Voilà, le temple était sacré, on venait faire les offrandes, mais on venait parler religion dans l'amphithéâtre. Et qui plus est, au XIIe siècle, on vient à 600 mètres du site rajouter une église mariale, enfin une église qui va être enfin qui va être construite en l'honneur de la Vierge Marie, qui est la Vierge Noire ou la Vierge Blanche, en tout cas qui est un symbole ctonien assez intéressant aussi, je pense. Et je viens donc de cumuler Gaulois, Romains, Gallo-Romains et Moyen Âge sur une voie romaine qui était tracée, et tout ça dans un site où il n'y a aucun village. Aucune urbanisation. C'est-à-dire qu'on s'est on s'est acharné, les religions successives se sont acharnées sur ce site. À l'époque, c'est le constat que je faisais. Sauf que quand j'ai commencé à tracer mes leylines tout seul, et que je me suis dit, tiens, il y a le site là, je vais aller le vérifier, et que je vois que bah, c'est un des nœuds locaux qui se trouve autour de Compiègne, c'est un des nœuds les mieux desservis en leyline, il y en a six. Je me dis, mais c'est dingue. Et l'une des leylines suit la chaussée de Brunehaut. Je me dis, mais c'est hallucinant. En fait,
Alors,
voilà, il y a
attends,
rien de scientifique là-dedans, si tu veux, mais.
suis la chaussée. Les lignes sont droites.
Oui.
Et les routes ne le
Oui.
sont pas. Enfin, à
Alors,
moins les autoroutes
elles
sur des
suivent.
kilomètres, mais.
Elles suivent quand elles le peuvent. Et puis quand il y a une vallée profonde, quand il y a un mont, ben, ça contourne comme ça peut. Et puis derrière, on va retrouver l'alignement de l'autre côté un peu plus loin, si tu veux.
Je vois l'idée. Je vois l'idée, enfin,
Voilà.
faudrait que je voie les cartes pour vraiment m'en rendre compte,
Ouais.
ça c'est certain. Je me posais juste la question parce que justement, je vois pas comment une route pourrait suivre une ligne, pas de façon ininterrompue, en tout cas, du moins.
Ben après, c'est la limite des reliefs et des vallées, hein, des vallées et
Oui,
des
c'est
monts,
ça.
hein. De toute façon, moi j'en ai une dans mon territoire local, effectivement. D'ailleurs, moi je suis né dans une ville qui porte le nom d'une chaussée. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment les leylines, j'étais dessus. Hein. Et ma famille est originaire du village suivant qui est traversé aussi par la leyline. Donc, si tu veux, par la chaussée. Donc, il y a la même leyline. Et à l'époque, quand j'ai commencé à tracer, je me suis dit, tiens, et je vais aller voir. Effectivement, on voit bien la ligne qui passe. Quand j'ai tracé mon premier coup de crayon, je n'avais pas regardé. Et quand j'ai ensuite regardé ce que j'avais tracé, j'ai retrouvé mes chaussées de Brunehaut, effectivement, dessus. Et ce qui est fou, c'est qu'aux endroits où ça croise, j'ai des souvenirs d'enfance quand je faisais du vélo pour aller rechercher, pour aller voir mes grands-parents. Et ben, à l'endroit des segments de leyline, là où ça se croise, et ben, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, de quand quand je faisais ce chemin, en fait, en vélo. C'est comme si la conscience enregistrait inconsciemment, à un moment où on passe sur ces lignes, et ben, c'est capté. Et deux fois, je l'ai vérifié sur ce trajet de vélo. Deux fois, c'est mes souvenirs d'enfance quand j'allais en vélo jusqu'à chez mes grands-parents, qui est un souvenir agréable, mais j'avais ces souvenirs précis de ces deux points de connexion. C'est comme si l'homme était connecté. D'où, je pense, le fait qu'il traçait ça. Peut-être certains étaient connaissants, mais d'autres avaient, je pense, cet instinct, en fin de compte. Il y avait un instinct presque animal chez les gens, chez les êtres humains de l'ancien temps. Il y avait cette connexion que nous, on a perdue. On ne la comprend plus, cette connexion, je pense. Il y avait ça.
Oui, plein de raisons qui peuvent
Je
expliquer notre
pense,
déconnexion de
je
la
pense.
nature sur plein
Bien sûr.
d'aspects. On est pas mal, je pense, sur ta carte un petit peu des éléments, des phénomènes, enfin des éléments
Oui.
qui peuvent.
Et
Il en
oui,
reste un majeur qui sera l'humain après.
voilà, l'humain. Et je voulais quand même vous dire, c'est ça que je parle, pour ça que je parlais Lionel Camus, c'est que je me suis quand même rendu compte que les disparitions inexpliquées, elles étaient sur des sites qui étaient référencés quand même avec des phénomènes inexpliqués pour la plupart. Hein. Quand c'est vraiment inexpliqué, ou alors des lieux sacrés, et on a de la disparition de personnes. Donc moi je dis attention, attention. C'est-à-dire que si vraiment on réussit le coup de force d'être sur un contexte tenseur, vraiment localement dessus, je ne peux pas vous dire que vous êtes en sécurité, quoi. Parce que là, ce que Lionel Camus nous montre, sans le savoir. Moi, en référençant dans Quai Long d'ailleurs tous ces cas inexpliqués, je me rends compte que les disparitions de gens qu'on n'a jamais retrouvés, hein, et qui ne, que, vraiment des cas étranges, hein, j'ai pris les plus étranges, Bah, il y a de la disparition sur des sur sur des sur les CIJ en fin de compte, sur les lunes et les pleines lunes, et puis sur certains sites que où j'ai été vérifier justement localement l'histoire des sites, eh ben on retrouve cette historicité de sacré, du sacré là-bas. Donc attention à ceux qui vont faire des petits tests, je voudrais pas dire que ouais c'est génial, vous allez bien vous amuser en faisant ça. Moi je reste prudent, en fin de compte, c'est pas ce
Attention,
qui me
parce que
touche.
tu engendres toi-même une forme de pensée en le disant. Tu vois ce que je veux dire? Tu crées, en
Oui,
fait,
j'entends.
dans la
Mais
psyché des gens, tu crées une peur et
oui.
donc tu leur mets un contexte
Ah oui,
pensé en faisant
je
ça.
sais bien, mais ça serait criminel de pas aller au bout de, vu que tu me demandes d'amener tous ces éléments. Dans le livre, j'explique quand même que, attention, moi, il y a un moment, j'ai un doute en travaillant sur les disparitions mystérieuses et inexpliquées, sur des sites un peu où il y a déjà des phénomènes, il y a des gens qui ont disparu quand même. Donc, attention, c'est pour ça, je voulais juste quand même le dire. Je pense que c'était important quand même de le signaler. Pas jouer à l'apprenti sorcier.
Je comprends. Alors, du coup, justement, ça nous amène à la création des phénomènes surnaturels. Il y a certains qui sont involontaires, alors avec tout un tas de contextes hein, que tu as décrit, puis aussi l'individu lui-même, donc qui est le récepteur, peut-on appeler le récepteur du phénomène, qui en est l'observateur. Et donc, de ce fait, son contexte mental et tout son conditionnement va faire qu'il peut voir ou ne pas voir, ou être témoin, pas témoin, en bien ou en mal. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, et je pense que c'est la démarche de ta recherche à toi, en tant que praticien, cette fois-ci, si nous sommes possiblement confrontés involontairement à ces phénomènes, pourquoi ne pas apprendre à les contrôler? Pourquoi pas en devenir l'acteur? Les
Ben, je pense,
déclencher ou
bien
ne pas les
sûr.
déclencher. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça?
D'en être l'acteur, c'est-à-dire en devenir opérateur, hein.
Opérateur ou pour les
Opérateur.
fermer, l'un ou l'autre. Hein. Si tu
Moi,
en
je
comprends
pense
la
que
mécanique.
oui, si on en comprend. Alors, il y a une différence entre avoir une connaissance et avoir la sagesse liée à cette connaissance. C'est
Chose.
tout le problème. Aujourd'hui, je pense que, et heureusement que mon travail, il est pas trop mis en lumière, en tout cas, en dehors de la sphère de l'occultisme et de l'inexpliqué, parce que je pense que, en toute honnêteté, oui, c'est le chemin que l'humain devra atteindre. Hein. C'est le chemin que devra atteindre l'humain, c'est-à-dire cette reconnexion à ça. Moi, je pense, au fond de moi, et ça, c'est une croyance que j'ai, hein, je crois aux humanités précédentes, à l'existence potentielle de ce qu'avait dit Platon, entre autres, et de ce que certaines religions mayas ou aztèques disent dans leurs histoires, dans leur légende, à l'existence de civilisations précédentes, peut-être, qui pourrait expliquer pourquoi on est les seuls à avoir utilisé le pétrole aujourd'hui, pourquoi, s'il y avait une précédente humanité, pourquoi ils n'ont pas utilisé le pétrole. Je pense qu'il fut un temps où on maîtrisait ces choses, ces énergies. J'ai trouvé quelque chose que j'ai mis dans Kualong qui est très intéressant. C'est le fait que derrière le Kualong, en fait, les plans inférieurs sont plus, entre guillemets, et là, cette fois-ci, je vais parler d'énergie, hein. Il y a plus d'énergie dans les plans. Dans le plan intérieur voisin, dans le plan inférieur ou intérieur voisin que chez nous. Et c'est vrai que quand on regarde tous ces phénomènes inexpliqués, lorsqu'ils rentrent, il y a un dégagement de chaleur et d'énergie. Il y a un champ électromagnétique. Il y a quelque chose derrière. On sent quand même une puissance.
Qu'est-ce que
Et
tu
il y
entends
a
par énergie justement à ce
à
stade?
la vraie, l'énergie
L'énergie
électrique, la
électrique,
vraie.
d'accord.
L'énergie, vraiment
Énergie
d'énergie.
électrique donc mesurable.
Mesurable, oui, bah, de toute façon, il y a beaucoup de phénomènes où on a mesuré, on a capté, où les témoins ont vu l'énergie, cette chaleur, ce dégagement de calories et d'électricité, l'odeur électrique. Il y a quelque chose derrière qui s'ouvre et qui est bigrement énergétique. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai retrouvé dans un de mes bouquins. Dans un de mes bouquins, alors j'ai plus le truc en tête, est-ce que c'est l'article de Monsieur Dumas? J'ai mis cet article dans Quallon, où on nous explique que la puissance d'un plan voisin est le quadruple de l'énergie disponible sur notre plan local. si tu veux. Ça, c'est ce qu'ils disent en occultisme. Et puis, quand je vais vérifier sur le terrain ces phénomènes qui rentrent, oui, il y a un dégagement de chaleur, clairement. Il y a un dégagement d'électromagnétisme, une odeur électrique qui est majeure. Et moi, je pense, pour rebondir là-dessus, qu'effectivement, l'utilisation par l'homme de cette maîtrise du Qualon, c'est la maîtrise de l'énergie, hein, derrière. Si on est en capacité de rompre par un contexte tenseur maîtrisé, presque, si j'ose dire, uniquement par l'esprit, tu te rends pas compte de ce
Si,
que
si,
ça veut dire, cette
je vis
théorie,
très bien.
par l'esprit, on arrive à avoir l'énergie dont on a besoin, quoi. Et je pense que la solution, elle n'est pas dans tous ces trucs palliatifs que nous, on a aujourd'hui. On essaye de contrecarrer le nucléaire, le pétrole et tout ça. Je pense que ce qui sera une avancée majeure, mais ça, vraiment, je spécule, hein, mais c'est parce que le Quallon m'amène à tirer un fil qui m'emmène jusqu'à ça. C'est de me dire que la solution sera l'esprit. Hein. C'est l'esprit qui solutionnera notre crise énergétique, mais faut-il encore en avoir la sagesse? Et heureusement que le gardien du seuil, qui est le mental et l'émotionnel, n'est pas bien maîtrisé par tout un chacun et par des élites qui seraient
Je
mal
t'arrête sur
intentionnées, parce que.
pas d'actualité, pas de politique sur la chaîne. Ça, c'est
Non,
une
non,
autre guerre
je
toujours.
m'arrête là. Mais heureusement, non, mais c'est le gardien du seuil, parce que si ma théorie, tout ça reste très théorique, hein, Ludovic, hein, mais si on rentre dans cette logique-là, effectivement, l'homme pourrait se satisfaire lui-même juste parce qu'il est lui, parce que il est son propre contexte tenseur et il est en capacité de maîtriser quelque chose qui est derrière. Et on le maîtrise aujourd'hui de manière accidentelle. Par tous ces phénomènes qui sont référencés, hein. Il y a énormément de phénomènes de poltergeist ou d'hantise qui nous montrent que des appareils sont mis en route tout seuls. Moi, j'en ai fait l'expérience d'une télé qui se rallume en pleine crise de hantise une nuit. Il y a une interaction avec l'électricité qui est flagrante. Donc, voilà, je pense que on pourrait le faire, mais.
Est-ce que tu fais un parallèle entre ces gens qui auraient pu atteindre une maîtrise du Qualon, comme c'est comme ça que tu l'appelles, c'est-à-dire cette
Ah
capacité
oui.
de briser. Est-ce que je prends des exemples illustratifs uniquement? Est-ce que tu considères à ton point de vue que par exemple Jésus était en capacité de pouvoir briser ce Qualon et accéder au plan subtil plus haut, d'où Christ? Est-ce que les Bouddhas ou les Bodhisattvas faisaient ça? Ou est-ce que d'autres personnages mystiques connus faisaient... Est-ce que pour toi, c'est ça qu'ils faisaient?
Moi, je pense, j'ai lu, je l'ai mis d'ailleurs dans Qualon, il y a une parole du Christ qui est référencée, où il doit guérir quelqu'un et il dit, il faut que nous le fassions maintenant parce que la nuit arrivera où je ne pourrai plus agir. Enfin, un truc comme ça, c'est, faut voir. Alors, on pourrait le traduire sous un plan purement comme religieux en disant que c'est le Père, la lumière du Père. Voilà, on peut le voir comme ça. Mais moi, je l'ai vu d'une manière très pragmatique, où il était en train d'expliquer que s'il attendait la nuit, il ne pourrait plus le faire, hein, en gros. Et je le fais apparaître dans mon bouquin. Moi, je pense qu'effectivement, pour qu'il ait marqué autant les esprits, ce personnage, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, son existence historique, parce qu'on trouve en négatif, on va dire, on trouve sur le territoire, sur le terrain des choses qui sont décrites. Donc on le fait exister un peu entre guillemets en négatif sans en avoir la preuve, mais il semblerait que pour qu'il ait marqué les esprits à ce point-là, par ces démonstrations de guérison, par ces miracles-là, il y a un moment, il y a un fond au sein même de toute cette légende qui a pu être bâtie autour, il y a quand même sûrement un fond de vérité sur quelqu'un qui maîtrisait quelque chose. Moi je pense que oui, parce qu'il y a des contemporains aujourd'hui, des mystiques. Je reprends toujours le cas du Padre Pio, mais il y a aussi le maître Philippe de Lyon qui faisait la démonstration devant leurs contemporains de ce qu'il était capable de faire. Et pour moi, c'est ni plus ni moins que la démonstration d'une inversion de polarité de la personne qui est en capacité de produire ce qu'elle souhaite, d'utiliser la matière malléable cachée derrière la réalité et qui est en capacité par cette maîtrise. Alors les mystiques, eux le maîtrisent intuitivement, l'occultiste, lui, le maîtrise par la technique. Hein. Hein, c'est le chemin de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ça mène au bout d'un moment à la même chose, à la maîtrise du Qualon. Mais je pense que oui, clairement, maîtriser le Qualon, c'est maîtriser ces miracles dont on fait mention chez certains contemporains et chez certaines personnes de l'Antiquité.
Est-ce que pour toi, certains occultistes, on va citer parmi les plus sulfureux, par exemple, est-ce que des personnages comme Aleister Crowley, est-ce que des personnages comme Osman Spare aurait pu maîtriser ça en fait aussi.
Ouais,
Parce que
je
là,
pense que tu...
on est sur des personnages qui sont plus sulfureux. Alors, plus sulfureux ne veut pas dire négatif, hein, c'est une question de point de vue. Crowley est très très décrié, c'est un personnage assez complexe. On peut en penser du bien ou du mal suivant les opinions morales et éthiques personnelles, mais c'est pas un type. Il était dans ses convictions, quoi, dans ce qu'il faisait.
Oui, bien
Et
sûr.
qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors,
Est-ce qu'il maîtrisait ça?
sûrement moins bien qu'un mystique, parce que on voit bien que quand on arrive à créer dans son émotionnel un rapport aux autres, un rapport plus global, sans faire du romantisme et du violon, mais ce qu'on va appeler l'amour avec un grand A, mais en tout cas l'intérêt qu'on porte pour l'autre en fin de compte, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus maîtrisé sans d'ailleurs en vouloir le maîtriser. Ça se fait naturellement, c'est de l'intuitif en fin de compte. Alors que chez les occultistes, oui, c'est peut-être plus forcé et peut-être beaucoup plus dangereux. Moi, il me semble que les occultistes terminent toujours un petit peu mal à la fin, quand même, quand ils arrivent à maîtriser des choses, ça se termine mal. Je pense que c'est parce qu'il y a un moment, oui, ils peuvent. Oui, je pense que les occultistes, du coup, on voit bien qu'ils terminent pas bien à un moment. Donc, je pense
Beaucoup.
qu'il manque quelque chose dans cette maîtrise.
Mais je suis assez d'accord. La plupart, dans l'occultisme occidental, finissent mal. Dans l'occultisme occidental,
Oui,
suivant
occidental,
lui. Parce
j'entends,
que dans
j'entends,
l'occultisme
j'entends.
oriental, si on peut dire, quand même, on a des durées de vie pour les personnages qui sont un peu meilleures, en l'occurrence. Mais bon, après,
Bah, je pense que
ça...
ça tient à la sagesse, hein. Ça tient aussi à une forme de sagesse aussi en Asie qui est peut-être moins,
Je suis
on est
pas
plus en
persuadé, mais
coopérativité, tu
ça nous
penses?
amènera un peu loin. Mais
D'accord.
je pense pas que ça soit lié qu'à ça. Je pense que c'est lié à des méthodologies. Des
Ok.
méthodologies, puisque, en fait, bon, c'est juste pour faire une digression, mais l'immense différence entre l'Asie et l'Occident sur un plan ésotérique, c'est que tout l'ésotérisme occidental est basé sur un modèle platonicien et tout l'ésotérisme asiatique est basé sur un modèle plus confucéen dans la pensée. C'est-à-dire qu'en Occident, il y a une séparation stricte entre le corps et l'esprit. Il y a le monde de la matière et le monde spirituel, et on considère que le monde spirituel est supérieur au monde de la matière. Toujours. Le corps meurt, mais l'esprit survit. Alors qu'en Asie, ce n'est pas le cas. C'est une interaction permanente entre la matière et le corps. On peut atteindre le divin par le corps ou par l'esprit, ou les deux en même temps. Mais il n'y a pas d'infériorité par rapport à l'un ou l'autre. Et je pense que cet équilibre harmonique de l'Asie,
Ouais, c'est ce que j'ai à dire. C'est une histoire de vase communicant, du coup.
bah, ils entretiennent le véhicule, au sens corporel. Ça nous
Exactement.
amènerait vachement
Non,
loin
final, au final, je suis assez d'accord du coup par rapport au modèle de Kualon. Je pense que c'est ça. Je pense effectivement que si tu crées des blocages, effectivement, dans ton équilibre intérieur, effectivement, c'est là que les répercussions arrivent. Je pense aussi.
Alors, me reste deux petites questions à te poser un petit peu. Dans la dernière partie de ton livre, tu apportes des éléments un peu plus opératifs, si je puis dire, assez succinctement, parce que on sent
Oui, volontairement.
ta réserve de prudence de ne pas vouloir donner des clés magiques à tous. Néanmoins, j'ai eu l'impression à la lecture que ta méthodologie était quand même assez proche d'une forme de méditation, en fait, très simplement.
Oui, clairement,
C'est comme ça que
clairement.
je l'ai ressenti, hein.
Oui, non, non, mais c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui navigue entre l'émotion et le mental. Et c'est pour ça que je suis plutôt équilibré dans un sens et que mon discours passe bien auprès des gens parce que j'essaie d'être mesuré, posé, d'amener à la fois du matériel et, entre guillemets, du spirituel. J'essaie d'équilibrer les choses, d'être dans la mesure la plupart du temps. Bon, plus j'avance, ben forcément, je prends de l'assurance sur le modèle que je suis en train de creuser, d'avancer, qui est né uniquement de mes déductions et non pas de croyances, hein. Mais j'ai remarqué qu'étant plutôt mental, et c'est toute ma difficulté, alors je peux être à la fois complètement déconnecté, et c'est dans l'enfance, j'étais vraiment comme ça, et mes professeurs s'en étaient inquiétés quand j'étais dans les petites écoles, hein, c'est que j'étais capable de partir complètement hors de moi et de plus être présent. Et en même temps, on va dire, l'éducation de mes parents très cartésienne a fait que ça s'est nuancé, ça s'est un peu équilibré. Mais pour rentrer de nouveau dans ce que j'étais capable de faire étant enfant, je suis obligé effectivement de rentrer dans une forme de méditation. Et la méditation pour la méditation est très difficile pour moi, occidentale, très, très, voilà, typique, quoi. Donc, j'ai remarqué quand même que l'utilisation de mon pendule, le fait de penduler, de laisser gérer mon pendule, hein, comme on utiliserait un petit crucifix, pas crucifix, un petit bracelet de prière là, me permettait d'avoir de lâcher prise en fin de compte. Donc je disais, oui, effectivement, j'étais proche de la méditation dans ma méthode parce que, étant très mental, l'utilisation de mon pendule, le fait de faire gérer mon pendule autour de quelque chose, me permettait de me réaligner en fin de compte, de calmer le mental, de l'apaiser. Et c'est là que j'ai eu mes meilleures expériences en fin de compte en termes de phénomène. C'est là que tout s'est créé. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette méthode et que c'est la méthode que je vais garder pour la suite, c'est-à-dire calmer le mental, mais avec ce pendule qui pourrait être autre chose. En fait, il faut trouver sa propre méthode, hein. Il y a des gens, ils vont pas avoir besoin du tout de ça. Ils méditent, ils savent faire, boum, ils font. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça pour l'instant. J'en ai conscience. J'ai des limites. Hein, j'ai une personnalité et il faut faire avec les acquis de l'enfance et les acquis de mes parents. Donc, il a fallu faire avec. Oui. Donc, ça se rapproche de la méditation. C'est comment dire, un pied de biche pour pouvoir me réaligner.
Oui, j'entends. Donc, je vois au niveau des méthodes quand même, t'encourages l'idée de méthodes que je vais appeler plutôt saines quand même, plutôt sobres. Je
Oui,
prends un
oui.
exemple. Dans la dernière partie, tu parles du contact avec notre ange gardien personnel. Bon, dans la Golden Dawn ou chez Aleister Crowley, il y a un rituel cérémoniel extrêmement complexe pour entrer en contact avec l'ange gardien. C'est pas forcément les méthodes que tu utilises toi.
Non, mais je pense que plus c'est simple et mieux ça marche. Il faut s'inspirer aussi de ce qui marche. On voit bien qu'il y a des gens qui sont plus simples, qui n'ont pas toutes ces connaissances et qui arrivent à en générer alors spontanément sans le vouloir, mais c'est que leur méthode, elle est ce qu'elle est, mais elle fonctionne. Donc revenons à des choses plutôt simples. Après, si ça peut aider l'opérateur, pardon, d'avoir tous ces éléments pour enclencher quelque chose, effectivement, enclencher, pour faire simple et parler colonien, enclencher l'inversion de polarité du cerveau, bah, si ça fonctionne, il faut le faire. Il n'y a pas de vérité. C'est toujours la même chose. Il faut faire en fonction de ce qu'on est.
Ouais. Alors, j'ai une dernière question du coup avant de passer tranquillement à la conclusion. Comment faire la part des choses entre la réalité d'un phénomène que l'on vit et l'auto-illusion personnelle? Comment savoir si on s'auto-illusionne pas, si on n'est pas dans une psychose diverse ou variée,
Exactement, ouais, c'est
ou
important ça.
si le phénomène a réellement lieu?
Alors, moi de mon côté, comment j'ai fait mes recherches? Et après, je te dirai au plan général ce que j'en pense. Moi, plus j'ai avancé sur les phénomènes, plus j'ai fait de rêves. J'ai fait beaucoup de rêves. Et dans ces rêves, on m'a amené de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, je me réveille et je comprends pas ce que j'ai rêvé. Enfin, je comprends pas l'information qu'on m'a donnée. Des fois, c'est des noms. Des fois, c'est des phrases que je comprenais pas. Par exemple, j'ai eu une phrase dans un rêve. Une fois, on m'a dit de la diversité n'est l'unité. Ok. Tu travailles avec ça. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ce que j'ai rêvé, en fait. Je ne comprends pas. Autant tu fais des rêves simples où tu vas rêver d'un personnage de télé parce que tu suis une série Netflix, pour parler très terre à terre, bah, tu vas rêver de ce personnage, tu dis, bah oui, forcément, j'ai regardé ça, j'arrête pas de regarder. Mais là, quand tu te prends un rêve comme ça, où on te sort une phrase comme celle que je viens de donner, tu dis, mais c'est quoi ça? De la diversité n'est l'unité, je ne comprends pas. Et c'est ancré dans ton esprit. Hein. Je peux te dire que cette phrase, jamais je l'oublierai. Elle est ancrée à vie dans mon esprit. Tu dis, c'est comme si j'avais reçu quelque chose d'en plus. L'illusion, c'est celle de l'illusion des médiums. Tu sais, quand tu vas voir un médium, par exemple, et tu vas lui poser des questions, plus tu vas lui mettre la pression, plus tu vas lui demander un truc, et moins ça va marcher. Parce que d'un coup, il va faire court-circuit. Il va commencer à vouloir te répondre, mais avec lui-même. Du coup, tu as une espèce de court-circuit. En fait, tout ce qu'il te donne, c'est des choses qu'il connaît lui-même. Ou alors, c'est du bateau, il n'y a aucune information intéressante là-dedans.
Alors,
Complètement. Par
je ne serais pas
contre,
forcément très objectif parce que je considère que 80% des médiums sont des charlatans qui s'ignorent dans la
Oui,
plupart des cas.
mais il
Pour moi,
y en
c'est
a deux, trois
du temps des charlatans.
qui sont très bons, hein. Mais oui, oui, je suis d'accord. Mais il y en a
Moi,
deux, trois, moi, j'ai
tu connais
rencontré.
ça, je prends le truc au vol. Si tu connais un médium bon,
Ouais,
qui est sûr
ouais,
de lui ou d'elle,
ouais,
qui veut venir en
ouais,
direct chez moi, je
ouais.
serai enchanté. Mais je
Eh
serai
ben,
sans
écoute,
pitié. Mais
je
je
lui
serai sans
demanderai.
pitié.
Je
Sans
lui demanderai.
pitié.
Oui, mais attention, faut pas lui flinguer son émotionnel aussi.
Mais c'est pas la question. L'idée, c'est dans la bienveillance. Mais l'idée, c'est que le problème de la médiumité, je crois à la médiumité sans aucun doute. Je crois enfin, sans aucun doute, c'est des croyances. La clairvoyance, la clairaudience et tout un tas d'autres choses. C'est juste que dans un contexte, prouver la faculté médiumique, c'est extrêmement complexe. extrêmement,
J'entends.
extrêmement, extrêmement complexe.
Moi, si tu
Et
veux,
donc,
le peu
la vérité,
d'expérience.
tu prends, je prends l'exemple de la phrase qui t'est venue.
Ouais.
Que ça soit une entité supérieure ou ton surmoi jungien, comment peux-tu objectivement faire la différence? Tu vois
Ah,
ce que je veux dire?
alors, moi aujourd'hui, tu vois, je me raccroche toujours au point de connexion de la membrane du côlon. Comment les phénomènes rentrent dans la réalité? Par quel biais? Moi, spéculer sur ce qu'il y a en haut, enfin, ou ce qui, enfin, pas en haut, ce qu'il y a à l'intérieur, hein, dans les mondes intérieurs, hein, c'est difficile. Moi, j'essaie d'y mettre le moins de masque possible. Parce que, à partir de là, oui, tu rentres dans la croyance. Il y a autre chose derrière. Est-ce que c'est sur moi? Est-ce qu'il y a un cinquième règne, tu vois, ou un surmoi? Aujourd'hui, je veux même pas, je le laisse ouvert. Peut-être qu'il y a effectivement une étape humaine supérieure, encore une étape avant le surmoi. Pourquoi pas? Je veux pas le re je rejette rien du tout. Par contre,
Ce que je
des
voulais dire,
éléments.
ce que je voulais dire, c'est simplement en psychologie analytique, il y a le moi conscient, ce que je sais que je sais. Il y a tout l'inconscient, ce que je sais que j'ignore et ce que j'ignore que j'ignore. Donc, une phrase qui apparaît soudainement la nuit, subtilement, tu peux ignorer que tu l'ignores et elle peut t'apparaître parce que tu travailles tout le temps en permanence. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la frontière est. C'est pour ça que je dis ça. Je ne dis pas que le phénomène n'existe pas, bien au contraire, je dis qu'on est quasi dans l'impossibilité pour savoir si c'est vraiment un phénomène exogène à nous ou si c'est un phénomène interne de notre conscience.
Moi,
C'est d'une difficulté, mais sans nom.
Moi, l'exogène, vraiment au sens vraiment exogène extérieur à, je pense que plus j'avance et plus je le rejette. Je pense qu'il y a toujours il y a un co-contact avec quelque chose. Peu importe si c'est de la surconscience, peu importe. Je pense qu'il y a bien une co-création à chaque fois. C'est codépendant. C'est pas possible autrement. Plus j'avance, plus c'est cohérent. Pourquoi la multiplicité des phénomènes? Pourquoi il y a autant de différents de phénomènes que de personnes qui les vivent? Parce que la personne, elle y met son empreinte, mais il y a quand même quelque chose qu'elle n'avait pas. Il y a un petit plus. Là, moi, je vais te donner un exemple qui. Alors ça, c'était mon rêve. Donc je me dis, ok, bon, pourquoi pas, Ludovic. Par contre, le jour où j'avais mon fameux médium, à qui je vais proposer, hein, je vais lui
Ah
proposer.
oui, non, mais propose-lui,
Ludovic,
ça
hein.
sera lui. On discutera ensemble, on
Oui,
parlera,
bien
etc.
sûr.
S'il y a
Moi,
quelque chose à faire ou pas, ça on verra.
ce monsieur, à l'époque où je traçais mes ley lines, je ne disais ça à personne. Je trouvais ça tellement saugrenu. Je faisais ça le soir. Au lieu de regarder la télévision avec ma compagne, j'étais sur le sol, par terre, et je traçais sur des grandes feuilles, et je traçais mes trucs dans mon coin. Bon. Personne ne le savait, ça. Et je travaillais avec les coordonnées Google Maps. Tu vois, je travaillais avec ça comme données. En parallèle, je fais mes enquêtes du GEPI. Ce médium arrive dans notre sphère, il arrive dans l'association. On commence à faire des enquêtes avec lui. Il est excessivement bon, hein, dans l'intuition, c'est un truc de dingue. Puis une fois, il m'appelle. Il m'appelle et il me dit, bon, bah écoute, Bragi, j'ai des coordonnées Google Maps à te donner. Je dis, ok, ça marche. Je prends ces coordonnées Google Maps, elle me corrige mes tracés. Véridique, hein. Franchement, je te jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. Il me corrige mes tracés. Et ça a duré 6 mois comme ça. Ça a duré 6 mois.
Je te
Qu'est-ce que je
crois,
peux mettre
je te
derrière,
crois,
Ludovic?
je te
Qu'est-ce que je peux mettre
crois, mais
derrière?
je dis je te crois, mais ce n'est pas une preuve, parce qu'un témoignage sans preuve,
Je
même
sais,
si
je
à titre
sais.
personnel, je peux te croire, il n'y a pas de souci,
Bien
mais je veux
sûr,
dire, la
bien
limite,
sûr.
elle est là. C'est
Ah,
toujours ça le problème.
mais je pense que c'est tout, c'est le gardien du seuil, c'est ce qui fait que nous resterons des êtres incarnés dans l'espace-temps, qui devons jouer avec notre vie, notre recherche de sens, sans espérer que la main d'un quelconque créateur va nous extirper de la fange pour nous sauver. C'est à nous de faire un acte de foi. Ça, on n'arrivera jamais. La science n'arrivera jamais à aller au bout du bout comme ça. C'est un acte de foi. C'est un acte d'incarnation dans la matière et c'est à nous de travailler. Donc,
Mais tu vois,
oui, tu
on va arriver à
imagines.
la croyance à la fin.
Mais c'est un acte de foi. Mais bien sûr, c'est une recherche de sens. C'est une recherche de
Alors,
sens.
j'aurais une dernière question. Elle est un peu rigolote, celle-là. Tu connais Eliphas Lévi, bien évidemment, et tu connais sa célèbre maxime, savoir, vouloir, oser, enfin, savoir, oser, vouloir se taire. Est-ce que dans ta démarche, te proposer ce modèle théorique et pratique, d'une certaine façon, est-ce que tu n'as pas peur, en offrant ce système à tout le monde, de violer un interdit, en révélant ses possibilités? Et donc, d'une certaine façon, est-ce que tu n'aurais pas dû le garder pour toi? D'une certaine façon,
Non,
c'est une
non,
question.
non. Ouais, non, mais c'est bien, c'est très, très intéressant ce que tu poses comme question. Tout m'a poussé vers la communication, c'est-à-dire que à être écouté par quelques personnes. Aujourd'hui, ça touche pas grand monde en fait, mais ça touche quand même les gens qui cherchent, ceux qui cherchent. Dans cette voie-là, en tout cas, qui vont utiliser les mêmes biais que moi, vont finir par me trouver sur le réseau, ça arrive toujours. Donc, je pense que de toute façon, ça n'intéressera pas le commun des mortels. Il y a des gens qui, enfin, la plupart sont trop enfermés dans leur quotidien. Hein, c'est l'image du film Matrix, hein. Il y en a qui veulent pas être débranchés, de toute façon. Donc, il y a ceux qui tentent l'initiation, ils sont pas légion, hein. Il y a ceux qui tentent et qui vont faire la démarche. Moi, je représente une couleur, hein. Je joue ma propre partition de musique qui va être entendue par des gens qui vont apprécier cette musique et qui vont s'inscrire vers moi. D'autres vont aller vers d'autres personnes qui sont mis en avant sur la toile ou en tant qu'auteur, tous on a notre couleur. Maintenant, je crois que si on m'a mis sur cette voie et qu'en 5 ans j'ai réussi, moi qui suis personne, qui n'ai aucune affiliation à rien du tout, en fait, je suis sorti de ma bulle tout seul, hein, et on s'intéresse à ce que je fais. Il y a une volonté quand même à ce que ça le soit. Voilà, tu me dis qu'on parle de croyance, bah, là on le touche. Et
Ah oui, mais...
ensuite, je dis, bah oui, mais je dirais aussi que il y a les gardiens du seuil. Tu viens d'en faire la démonstration ce soir. Il y a un moment, au bout du bout du bout du bout, à la fin, ben on doutera toujours de la personne. Il faut le vivre soi-même pour en faire la démonstration et arpenter ce chemin-là. Donc, tu as répondu pas partiellement à la question. De toute façon, celui qui n'a pas envie de croire ne verra pas. C'est ça qui est terrible. Celui qui veut voir, enfin, celui qui veut voir pour croire doit d'abord croire pour voir. Et ça c'est le gardien du seuil qui est l'ultime gardien du seuil. De toute façon, il y a un moment, il y a un acte de foi, il y a un acte de recherche de sens. On
Oui,
ne peut pas aller plus.
je suis assez d'accord sur un point qui est cette frontière. Ce n'est pas pour rien que justement dans l'occultisme, le plus difficile, à mon sens, c'est juste un témoignage personnel, mais le plus difficile pour moi, à mon sens, c'est la focalisation de la volonté. C'est-à-dire être capacité de focaliser sa volonté sur un acte ou une forme de pensée, etc. Tout ça. Et ça, c'est
Exactement.
pas donné. Quand je dis c'est pas donné à tout le
Non.
monde, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est que ça suggère un entraînement, une
Ça prend
préparation.
du temps.
Il y a des gens
Ça prend du temps.
qui ont ça de façon innée, bien entendu, mais c'est extrêmement rare. L'immense majorité des gens ne fourniront jamais les efforts suffisants pour pouvoir focaliser leur pensée,
Bien
écrire une
sûr.
forme de pensée.
Bien sûr.
Est-ce
Moi,
que
il m'a fallu un an. Hein. Il m'a fallu un an pour expérimenter une forme de pensée externalisée et mesurable. Ouais.
Et du coup, j'en profite forcément. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses être en capable de pouvoir provoquer un phénomène volontairement comme ça? Enfin, comme ça, avec une préparation, c'est-à-dire tous les contextes tenseurs, et pouvoir provoquer le phénomène, à envie.
C'est l'objectif ambitieux que je me donne, hein, de dire que je vais réussir. J'ai toutes les clés, hein, je pense avoir compris les choses, même dans ce qui est difficile aujourd'hui de maîtriser, c'est-à-dire l'état d'esprit précis qu'il faut atteindre pour être justement en résonance avec le contexte tenseur et voir la chose se manifester devant. En théorie, oui. En théorie, je crois en mon modèle, je crois dans ce quallon, dans ce que j'amène, j'y crois, mais après, il faut se bagarrer avec ce gardien du seuil, avec sa personnalité, quoi. Donc j'y crois, oui, mais en théorie, oui, clairement.
Donc en fait, pourrait-on dire, l'enquête continue. Et justement, elle
Exactement.
continue, puisque tu as des projets, je crois, pour la suite de ces aventures.
Exactement, exactement. J'en ai un tout petit peu parlé. Je pense que ça transpire un petit peu de ce qu'on est en train
On a senti que tu étais en recherche.
C'est ça. Donc là, on est en train de mettre en place, effectivement, à partir de septembre. J'ai annoncé sur beaucoup de chaînes, et du coup, ça sera sur la tienne aussi, qu'à partir de septembre, je disparais médiatiquement, parce que j'ai pas besoin d'exister. En fin de compte, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce travail-là pour les gens qui veulent me suivre et qui veulent avancer sur cette voie que je propose. Je pense qu'ils sortent de l'ordinaire, en plus, qui est assez, voilà, différente. Peut-être un peu plus. Un peu plus moderne, peut-être, je sais pas, parce que je fais tomber effectivement beaucoup de secrets, enfin beaucoup de secrets, je fais tomber beaucoup de choses, enfin, qui étaient avant cachées, derrière tout un tas de symboles. Et là, c'est très pragmatique ce que j'amène, en fin de compte, en tentant de relier ça aussi avec un peu de science, même si c'est alternatif. Donc oui, j'ai décidé donc de disparaître et de repartir, hein, comme j'ai fait avec Bigfoot Dogman. On a monté une petite équipe, on n'est vraiment pas nombreux, on est deux ou trois, et puis on va aller analyser les terrains. On est déjà en train de le faire, d'analyser des terrains qui seraient à même d'accueillir nos tests, et on va donc ensuite travailler sur notre mise en état, enfin l'état d'esprit, essayer de trouver ce juste milieu entre un émotionnel calme, mais en même temps très présent, et puis une forme de ritualisation pour habituer le conscient à plonger dans l'état qui est favorable à cette résonance avec le Kualon, en fait.
Ouais, je vois. En tout cas, ça promet une recherche captivante.
On
Et
va
puis
voir.
j'imagine qu'à l'issue de ces travaux de recherche, tu partageras un petit peu ces expériences. Et en tout cas, ce qui est intéressant chez toi, je ne suis pas forcément d'accord toujours avec tout, mais
Mais
ce
c'est
que j'aime
normal.
dans ta démarche, c'est qu'elle est évolutive. Elle est évolutive. C'est-à-dire que tu acceptes ta remise en cause, tu acceptes le changement,
Oui.
tu acceptes t'acceptes que ton modèle, il n'est pas définitif. Et ça, c'est très, très intéressant parce que, quel que soit ce qu'on pense, entre parenthèses, de ton modèle, la certitude étant, c'est qu'on peut en parler avec toi et on peut avancer. Et ça, c'est vraiment une chance. Et ce n'est pas forcément très fréquent dans les milieux ésotériques ou même de sciences alternatives. Sur ce, moi, je vais te laisser la conclusion, le mot de la fin, si tu as quelque chose que tu souhaites nous partager.
Oui, ben déjà explique un petit peu que oui, je pense qu'en septembre je vais vraiment être moins présent. Cette promotion, on va dire, de Quallons va se terminer le mois prochain normalement. On va voir si d'autres personnes sur l'été sont intéressées pour m'inviter, mais après en septembre il faut que je me focalise sur ça. Pour ceux qui veulent me suivre sur Facebook, je suis disponible, je suis présent, je réponds souvent en Messenger quand on me pose des questions. Je suis très très disponible, j'essaye toujours de répondre parce que je suis dans une démarche vraiment d'échange avec les gens. Je pense que j'ai pas la vérité, mais tout le monde l'a, donc on peut échanger de nos expériences. Et j'ai un petit groupe Suivre Brajibélovac sur Facebook où là je mets plus de choses en fin de compte. Voilà. Sinon, ben voilà, l'aventure continue. Le modèle, comme tu l'as dit très justement, il n'est pas fermé. Je veux dire, je l'ai toujours fait de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. En fin de compte, j'ai toujours actualisé, ce qui fait que j'avance de plus en plus et de plus en plus loin, je pense, pour ceux qui me suivent. Ça a toujours été enrichissant d'un livre à l'autre parce que je ne me contente pas de redire les choses. En fait, je les fais avancer sur mes trois piliers, des lectures de livres de référence, des expérimentations terrain et l'écoute des témoins qui sont pour moi une source de richesse importante et je réponds toujours à un témoin et j'essaye toujours d'être présent. Voilà. Et je vous
Eh bien,
remercie.
c'est tout à ton honneur et c'est une belle démarche. Eh bien, écoute, pour terminer, Bragi, un grand, grand merci d'être venu pour parler de ce livre ici chez moi. C'est pas forcément évident parce que ici, avec la ligne de la chaîne, on va forcément aller creuser et piquer
Très
où
bien.
ça gratte, surtout dans le domaine de l'ésotérisme, parce que sinon, bah, on ouvre la porte à tout et c'est pas possible. Donc, on essaie de mettre un cadre. Alors, c'est pas toujours évident. Toujours un petit peu complexe, mais tu t'es très bien défendu avec ces exigences-là, et donc un grand, grand, grand merci à toi,
Oui,
et un grand
merci à toi,
merci à
Ludovic.
tous les auditeurs de nous avoir écoutés.